Vous êtes sur RTL.
39 minutes à la seconde près, nous passons le micro à Yves Calvi. Bonjour Yves.
C'est magnifique, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Julia, ainsi qu'à toute l'équipe des Petits Matins. Bonjour à tous, j'ai tout d'abord envie de vous donner rendez-vous ce matin avec François Langlais. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais les prévisions optimistes de l'OCDE ont de quoi largement nous remonter le moral. Un record depuis la Seconde Guerre mondiale à l'échelle de la planète, les différents plans de soutien, l'économie ont tout simplement fait leur ouvrage, et avec la progression de la vaccination, visiblement le ciel se dégage. L'Europe est-elle aussi concernée? La France aussi, nous dira François Langlais à 7h35. Notre invité politique, lui, a besoin d'argent pour sa ville. Benoît Payan est ce matin l'invité d'Alba Ventura, le maire socialiste de Marseille. Rencontre aujourd'hui le président Macron. Au menu de cette rencontre, les difficultés financières de la ville et la sécurité. Rendez-vous dès 7h40 avec Alba Ventura. Et puis, dernier invité de prestige, le capitaine du Paris Saint-Germain. Le PSG reçoit Barcelone ce soir au Parc des Princes. Un match retour à haute intensité, car personne n'a oublié la fameuse remontada. Tout cela pour une place en quart de finale. Marquinhos se confie au micro de Philippe Sanfourche à 8h20 et avec la franchise qu'on lui connaît, il aborde absolument toutes les questions. Nous sommes le mercredi 10 mars 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vendu en supermarché, rapide et moins cher, les autotests s'apprêtent à débarquer en France.
Disponible depuis ce week-end en Allemagne, tous les magasins ont été dévalisés en quelques minutes. Reportage à suivre. Une querelle amoureuse et des photos intimes diffusées sur les réseaux sociaux, sans doute à l'origine de la mort d'Alicia à 14 ans. Vous entendrez sa maman dénoncer le harcèlement qu'elle subissait. À Marseille, la nouvelle municipalité refuse d'augmenter la vidéosurveillance, pourtant subventionnée par l'État et pourtant efficace, comme nous le dira notre correspondant Hugo Hamelin. Dans ce journal également, la contre-attaque de Buckingham après l'interview retentissante de Meghan Markle et du prince Harry. Et puis Paris, immense favori à quelques heures du coup d'envoi du match retour contre Barcelone.
Je croise les doigts. Ce sera un peu plus facile. La politique avec vous, Olivier Bost.
Et avec les gestes d'Emmanuel Macron pour enfin évoquer notre histoire si douloureuse avec l'Algérie.
On se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Acheter son test anti-Covid en allant faire ses courses, ce sera peut-être bientôt possible. Après l'Autriche, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France s'apprête à son tour à autoriser les autotests. La Haute Autorité de Santé se réunira après-demain, vendredi, pour tenter d'en définir le cadre et les modalités. Mais d'ores et déjà, la grande distribution se dit prête à les mettre en rayon. Dominique Schelcher est le patron de Système U.
Nous avons tout simplement observé ce qui se passe à l'étranger, notamment dans plusieurs pays européens. Le dernier en date, c'est l'Allemagne, où des tests antigéniques sont disponibles dans plusieurs chaînes de supermarchés et ont eu un grand succès. Ça veut dire qu'il y a une véritable attente de pouvoir se tester facilement. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire la même chose en France ? Vous savez, il y a un an, si on nous avait dit que quelques mois plus tard, on vendrait des masques, on n'y aurait pas pensé non plus.
Propos recueillis par Anaïs Bouissou, le patron de Système U, qui évoquait à l'instant l'exemple de l'Allemagne, où là-bas, des tests sont disponibles depuis samedi dans les rayons de plusieurs supermarchés. Et le succès est tel que les stocks sont chaque matin épuisés en quelques minutes. Reportage de Blandine 1100.
7h du matin, juste avant l'ouverture d'un discounter du quartier de Schöneberg à Berlin. Une longue file d'attente. Et parmi ceux qui veulent acheter ces autotests, Arkon, patron d'un salon de coiffure.
J'ai besoin de ces tests pour mes clients s'ils viennent sans masque, pour être sûr qu'ils ne sont pas malades.
Il y a aussi Renate, retraitée. Elle raconte tout essoufflée parce qu'elle vient d'arriver. Que dès samedi, elle a essayé d'en trouver. Il y avait une file d'attente tellement longue qu'arrivée aux caisses, plus rien. En moins d'une heure à Berlin, samedi, il n'y avait plus un seul de ces autotests à vendre. Les autorités en promettent 10 millions cette semaine dans toute l'Allemagne. Pratique, par exemple, avant de recevoir des amis ou pour un déplacement professionnel. Par ailleurs, toujours pour accompagner les premières mesures d'allègement des restrictions, des centres, une quinzaine à Berlin, proposent un test rapide gratuit, un par semaine pour chaque citoyen. Enfin, début avril, les médecins pourront commencer à vacciner. Renate, notre retraitée, a pu, elle, acheter une boîte de 5 tests pour 20 euros et elle est contente.
Blandine 1100 en Allemagne pour RTL.
RTL, il est 7h03. Deux adolescents sont touchés en garde à vue ce matin, soupçonnés d'avoir provoqué la mort d'une jeune fille de 14 ans à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise.
Alicia, c'est son prénom, a été battue et jetée dans la Seine lundi. Parmi les deux jeunes mis en cause, l'un d'eux est également soupçonné d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour publier des photos intimes de la jeune fille. Alisha était depuis plusieurs semaines victime de harcèlement. C'est ce que dénonce aujourd'hui sa maman, rencontrée par Nicolas Burnand.
Elle m'a dit, maman, j'ai des problèmes, des gros problèmes. J'ai été menacée de mort par ce garçon et cette fille. Ils étaient très jalouses de elle, qu'elle était une bonne élève et eux, ils n'arrivaient pas. Avant, elle était d'accord que je vais à la police pour porter plainte. On était assis dans le commissariat, mais elle a entendu qu'on doit attendre 4 heures, 5 heures. Elle a dit, maman, non, j'ai pas le temps, je dois repartir au lycée. Il y a une très importante évaluation que je dois faire. J'ai dit, non, Alisha, c'est ta vie. Un jour, quelqu'un va faire quelque chose avec toi. Là, je pouvais pas sauver ma fille. On demande la justice. Ça, c'est pas des enfants. Ça, c'est des assassins. Parce que c'était mon chair qu'ils m'ont pris. Mon cœur, ils m'ont arraché. On croit encore. Peut-être elle va venir là. Elle va dire, oh maman, excusez-moi. Mais elle va pas revenir. Ça, je sais maintenant.
Le témoignage de la maman d'Alisha recueilli par Nicolas Burnand.
Et à 7h15, nous recevrons Hugo Martinez. Lui-même est une ancienne victime de harcèlement. Il a depuis créé une association pour combattre ce fléau.
Et nous évoquions également le rôle des réseaux sociaux. Il semble qu'ils soient également à l'origine d'une violente bagarre hier dans le 16e arrondissement, aux abords du Parc des Princes et à deux pas d'un lycée, 16e arrondissement de Paris. Affrontement entre deux bandes rivales sur fond d'insultes. Bilan, 5 blessés, dont un grièvement.
Elles sont indispensables, affirment les policiers. Pourtant, à Marseille, la nouvelle municipalité refuse d'augmenter les caméras de vidéosurveillance. Et ben on vous explique tout cela dans un petit instant sur RTL, dans le journal de Dominique Tenza.
RTL Matin.
La suite du journal de Dominique Tenza, il est 7h07. C'est un choix que le nouveau maire de Marseille assume, Benoît Payan, qui sera d'ailleurs à 7h40 l'invité d'Alba Ventura, refuse pour l'instant d'augmenter la vidéosurveillance dans sa ville.
Il a même refusé il y a 15 jours une subvention d'€1 million proposée par le ministère de l'Intérieur pour équiper davantage la cité phocéenne. Tout ça par idéologie, dénoncent les opposants à la nouvelle municipalité dirigée par le printemps marseillais marqué à gauche. Alors qu'en est-il sur le terrain ? Hugo Hamelin, vous êtes notre correspondant à Marseille. La ville compte déjà 1400 caméras et disons-le, hein, aujourd'hui les forces de l'ordre ne pourraient plus s'en passer.
Oui, c'était un gadget il y a 10 ans. Ces caméras sont devenues indispensables selon les policiers comme Rudy Mana du syndicat Alliance.
Aujourd'hui, la police ne peut plus se passer de cet outil-là.
Ça arrive souvent que vous l'utilisiez ?
Pour tous les dépôts de plainte que l'on a, c'est la première chose que l'on fait. 50% des auteurs qu'on interpelle le sont grâce aux images de vidéoprotection.
Primordial pour résoudre les enquêtes, beaucoup moins pour dissuader. Quartier Noailles, au lieu de la contrebande de cigarettes,
c'est que des Marlboro.
Les revendeurs sont installés carrément au pied des trois caméras de la rue principale.
Le problème des caméras, elles ont été très efficaces, mais ça a duré très peu de temps.
Dans sa boutique, Yves Bossens, de l'association des habitants du quartier.
Voilà, vous avez des vendeurs à la sauvette, avec des bagarres, coups de couteau. Ça ne diminue pas les problèmes que nous avons dans le quartier.
Alors, ces appareils sont financés principalement, et c'est l'ironie de l'histoire, par le Fonds de prévention de la délinquance. Manque encore un outil pour évaluer leur efficacité, selon l'ancienne adjointe à la sécurité de la ville, Caroline Posementier.
Il ne faut pas l'enlever aux policiers, c'est le désarmer. Mais par contre, il faut l'aider à évaluer cet outil moderne sur lequel il ne peut plus y avoir de recul.
Derrière sa posture idéologique, le printemps marseillais a tout de même lancé un appel d'offres pour entretenir, voire ajouter de nouvelles caméras dans les prochains mois.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Au Royaume-Uni, la première réaction de la reine Elisabeth après l'interview de Meghan Markle et du prince Harry. Le couple avait dénoncé notamment le racisme de certains membres de la famille royale qui se questionnaient sur la couleur de peau de leur fils. La souveraine a répondu hier de façon mesurée, mais se gardant bien de tout mea culpa. À Londres pour RTL, Marie Billon.
On commençait à critiquer Buckingham Palace pour son silence assourdissant, mais on ne s'attendait pas à un communiqué si percutant. La famille Litton est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour le couple. Alors certains y verront la preuve que le palais manque tellement de compassion qu'il avoue ne pas voir les gens qui souffrent. Mais cette phrase contredit aussi très directement Meghan quand elle disait qu'on l'avait empêchée de demander de l'aide quand elle avait des pensées suicidaires. Les questions soulevées, lit-on encore, surtout celles liées au racisme, sont préoccupantes, avoue le palais. Elles sont prises très au sérieux et seront traités par la famille royale en privé. Le linge sale sera donc bien lavé, mais pas en public, ce qui en décevra certains qui estiment que la famille devrait être plus transparente. Et puis Buckingham Palace ajoute, mais tout le monde ne se souvient pas de la même chose, ce qui signifie que ce que Meghan a vécu comme du racisme est explicable peut-être autrement, selon le palais. Le fait qu'Arthur n'est pas prince, par exemple, estiment les commentateurs, mais le palais, lui, se garde bien de toute précision. En tout cas, pas de rancune du côté de la couronne, selon la conclusion du communiqué. Harry, Meghan et Archie resteront toujours des membres chérie de la famille.
Marie Billon à Londres pour RTL.
PSG-Barcelone, match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est ce soir à 21h au Parc des Princes.
Les Parisiens largement favoris après leur victoire 4-1 à l'aller il y a 15 jours, mais dont les supporters restent traumatisés par le souvenir de la remontada. C'était il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, le 8 mars 2017. Une cicatrice que les joueurs aimeraient bien effacer, Nicolas Georgeron.
Au PSG, il y a des mots, il y a des souvenirs à oublier.
Vous nous saoulez avec la remontada.
Pour Abdou Diallo, le défenseur parisien, autre match, autre époque.
C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Donc il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l'adversaire, on se respecte nous-mêmes et puis on va faire le maximum.
Des paroles aux actes pour tourner définitivement la page du fiasco retentissant d'il y a 4 ans. La marge est réelle, 4-1 à l'extérieur. Mais s'il y a un léger doute, une fébrilité éventuelle, on a bien compris côté barcelonais que ça ne coûtait rien d'essayer.
Siempre hay vida.
Nous sommes toujours en vie.
Non, c'est impossible.
Rien n'est impossible, dit Ronald Koeman, l'entraîneur catalan, entre intox et auto-persuasion pour ce Barça qui a retrouvé des couleurs, invaincu depuis 4 rencontres, sans encaisser le but.
Nicolas Georgerot qui nous fait vivre ce soir ce match dès 20h45 avec Eric Silvestro dans RTL Foot.
Et le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, se confie au micro de Philippe Sanfourche à 8h20 sur RTL.
Et puis je vous signale l'élimination hier de la Juventus Turin, battue en 8e de finale par le FC Porto. Nouvelle déconvenue pour Cristiano Ronaldo. L'an dernier, c'est face à l'OL que le club avait chuté.
Les courses ont lieu aujourd'hui à Reims.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 8, le 5, le 14, le 10, le 2 et le 16. La dernière minute, c'est le 5 d'Egan Aouida.
C'était le journal de Dominique Tenza. 7h12, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Emmanuel Macron ouvre les archives sur la guerre d'Algérie. Le chef de l'État continue ce travail de mémoire sur ce douloureux passé de notre histoire.
Olivier. Oui, la guerre d'Algérie est un traumatisme collectif pour les jeunes appelés dans les rangs de l'armée, pour ceux qui ont dû fuir le pays, les pieds noirs. Et ce passé n'a jamais été expurgé avec les Algériens. Tout semble en fait irréconciliable. Nos pays, nos mémoires, notre histoire. Il y a des traumatismes enfouis, jamais racontés. Et cela nourrit des postures, encore aujourd'hui, victimaires, politiques, diplomatiques. Le séparatisme en France se nourrit aussi de ces non-dits. Emmanuel Macron s'est donc engagé dans ce travail courageux de vérité. Il l'a d'abord fait maladroitement, en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. Brusquer le débat ne le fait pas avancer, il conforte chacun dans ses certitudes. Dans une approche plus apaisée ensuite, mais tout aussi éruptive sur le fond, il a demandé à l'historien Benjamin Stora de lui proposer une méthode pour enfin parler des choses et rétablir un contact avec l'Algérie pour se réconcilier avec notre histoire.
Alors ce travail justement, Olivier, porte-t-il ses fruits ?
Oui, Emmanuel Macron suit ses recommandations de petits pas que lui a suggéré Benjamin Stora. Reconnaître que des militants de l'indépendance ont été torturés et tués par l'armée française, c'est ce qu'a commencé à faire Emmanuel Macron ces dernières semaines. Hier, le chef de l'État a fait un pas de plus en autorisant l'ouverture des archives classées jusqu'ici secret défense jusqu'à 1970. Les chercheurs, les historiens vont enfin pouvoir, si l'administration ne se montre pas trop tatillonne quand même, éplucher tous les documents qui recèlent une part de la vérité. C'est un geste présidentiel qui aidera à établir une vérité historique sur laquelle tant de gens se confrontent. Savez-vous, Yves, combien de Français ont une filiation ou un passé de près ou de plus loin avec l'Algérie ?
Pas du tout.
Eh bien, entre les immigrés, leurs enfants, leurs petits-enfants, les pieds noirs, les juifs d'Algérie, les harkis, les appelés qui ont fait la guerre, les coopérants ensuite, eh bien, ça représente 7 millions de personnes, un Français sur 10.
Faramineux.
Voilà ce qui permet de mesurer l'ampleur de ce travail de mémoire.
Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron aura achevé ce chantier dans son quinquennat ?
Il le faut. Avec cet autre défi, les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie seront célébrés le 19 mars 2022, à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle. Il faudra d'ici là, à un moment ou à un autre, un grand discours, disent tous ceux qui travaillent sur le sujet et qui veulent le dépassionner. Ce travail est exactement le contraire de la cancel culture, très en vogue chez les minorités, qui consiste à effacer une partie de la mémoire au nom d'une certaine morale ou d'un certain militantisme. La guerre d'Algérie, la colonisation est notre dernière déchirure mémorielle. un grand discours présidentiel. Il le faut pour l'histoire, pour le présent et pour l'avenir.
Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve bien entendu sur le site RTL.fr. Et je vous rappelle notre rendez-vous politique de la matinale à 7h40. Alba Ventura reçoit Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille. Dans un instant, nous allons revenir sur le décès de cette jeune collégienne hier à Argenteuil. La spirale du harcèlement serait un des motifs de ce drame. Nous ferons le point avec notre brigade de l'actualité. Et nous serons aussi avec Hugo Martinez. Il a 22 ans. Il a été harcelé durant toute sa scolarité et a créé pour cela une association afin de la combattre.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h16. La mort de cette jeune collégienne de 14 ans hier à Argenteuil a remis en lumière les faits de harcèlement. Qu'il se passe sur les réseaux sociaux ou dans la cour d'école, les effets sont évidemment dévastateurs. Nous serons dans un instant avec Hugo Martinez qui a été victime de harcèlement et qui a créé une association. Auparavant, faisons un point avec notre brigade. Bonjour Anne Le Hénard.
Bonjour.
Vous êtes responsable de notre service... Vous appartenez, pardonnez-moi.
J'appartiens au service
police. À notre service police-justice d'RTL. Anne, comment protéger les jeunes de ces situations de harcèlement ?
Alors déjà, il faut les repérer, ce qui n'est pas simple, parce que le ou les harceleurs font ça plutôt discrètement, hein, dans le dos des profs. Quand on arrive devant un radar, on ralentit, explique un chargé de mission harcèlement de l'éducation nationale. Mais il y a depuis quelques années une vraie prise de conscience et un but dans l'éducation nationale que chaque établissement est à terme un référent harcèlement, voire plusieurs, et même des ambassadeurs, des élèves qui sont formés pour lutter contre ce harcèlement. Ça progresse donc, mais ça ne va jamais assez vite. Et ça suppose donc toujours que la victime arrive à un moment à en parler et à donner l'alerte.
Dans le drame d'Argenteuil, il y aurait aussi, on va rester bien entendu prudent, du cyberharcèlement. Des photos de la victime dévêtue auraient été diffusées par son agresseuse présumée.
Hein. Et ce phénomène explose parce que les enfants, de plus en plus jeunes d'ailleurs, tombent dans le piège de faire des photos d'eux-mêmes dans des postures ou dans des tenues qui font que ces selfies ne sont pas destinées à être diffusées. Et ça arrive parfois, ce qui semble s'être passé à Argenteuil. Alors là, lorsque des photos circulent, il faut aller très vite, conseille Justine Atlan. Elle dirige l'association e-Enfance, qui est partenaire de l'éducation nationale dans la lutte contre ce cyberharcèlement. Elle travaille avec la plupart des plateformes de réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram. Et elle peut, en travaillant avec eux, en quelques heures, faire supprimer ces photos pour éviter qu'elles circulent vite et partout et que cela prenne des proportions dramatiques. Je vous rappelle le numéro de téléphone à contacter, c'est le 0800 200 000, 0800 200 000. Sachez que si vous êtes témoin, si vous recevez ces photos choquantes, vous pouvez aussi appeler ce numéro. Et puis je vous rappelle que les diffuser, c'est un délit puni de 2 ans de prison et 60 000 euros d'amende.
Il y a des sanctions pénales pour harcèlement scolaire.
Alors les auteurs peuvent être poursuivis pour harcèlement moral ou pour violence. Mais en matière de harcèlement, il ne faut pas croire que la plainte est la solution, a expliqué Justine Atlan à RTL. Ça prend du temps, c'est toujours très lent, trop long. Et la sanction, elle peut aussi avoir un effet pervers, souligne un responsable de l'éducation nationale. C'est que le harceleur, puni, peut avoir ensuite envie de se venger.
Merci beaucoup Anne Le Hénard. Bonjour Hugo Martinez.
Bonjour Yves Calvi.
Vous avez bien connu ces situations de harcèlement, Hugo, durant votre scolarité. Vous avez d'ailleurs créé l'association qui porte votre prénom, Hugo. Vous venez d'entendre les explications de notre brigade et j'aimerais savoir ce que vous dites aux enfants et aux adolescents qui sont eux-mêmes victimes de harcèlement. Comment on en parle et avec qui finalement ?
Alors, le harcèlement scolaire, quand on en est victime ou témoin, tout adulte responsable peut être la personne finalement ressource qui peut vous aider à arrêter cette situation de harcèlement. Alors souvent on pense parents, on pense enseignants ou surveillants, mais il faut voir un peu plus large. Ça peut être une personne de proximité avec la famille, donc quelqu'un, un oncle, une tante, mais ça peut être aussi un ami proche de la famille. L'idée étant que le jeune identifie quelqu'un avec qui il est en confiance. C'est pas forcément souvent les parents parce que on sait bien, on a toujours peur en tant qu'enfant d'avoir des représailles, etc. Mais il faut créer ce lien de confiance. Donc ça peut être vraiment un parent ou en tout cas un proche.
Moi, un adulte confident, je vous comprends bien.
C'est ça, un adulte confident qui aura la capacité de revenir après vers la famille de l'enfant victime ou témoin et après de pouvoir mettre en place des actions suite à cela. Moi j'aimerais juste revenir sur un point, c'est sur aujourd'hui la sanction vis-à-vis du harcèlement scolaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui le harcèlement en France, le harcèlement à l'école est impuni. On tue des élèves sans qu'ils soient, en tout cas leurs agresseurs, punis. Et il faut savoir que nous depuis le début de l'association on se bat pour cela, pour deux raisons, parce que ce délit de harcèlement scolaire qu'on souhaite créer, et ça on travaille avec le député Erwan Balanant du Modem qui a rendu un rapport dans ce sens-là. Ce délit, il est là pour aider. Aider d'abord la victime à être reconnue au statut de victime et qu'on puisse le prendre en charge par la sécurité sociale ses frais de thérapie, parce qu'aujourd'hui ça représente entre 450 et 550 euros et autant vous dire que toutes les familles n'ont pas les moyens de le faire.
Bien sûr.
Et surtout aider le ou les agresseurs potentiels à la fois prendre conscience de leurs actes, de la conséquence que cela peut avoir, que le harcèlement scolaire, ça tue. Même si ça paraît être juste une simple moquerie, une simple bousculade sur le moment, ça a des conséquences. Et surtout l'aider à prendre conscience qu'il peut s'exprimer autrement, exprimer son mal-être, parce que souvent dans 9 cas sur 10, il est soit lui-même mal à l'aise, soit finalement ancienne victime de harcèlement scolaire, et qui peut l'exprimer autrement que par la violence, par un art, un sport, etc.
Oui. Les réseaux sociaux ont un rôle dans tout ça, c'est qu'en fait, ils font durer la torture.
Ils font durer la torture permanente, de manière permanente, c'est-à-dire le soir, pendant les vacances, non-stop. Mais surtout, ils rendent aujourd'hui le harcèlement scolaire très, finalement, immatériel. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Avant, ça se passait principalement, j'ai envie de dire, dans la cour de récréation, hein, au sens symbolique. Et donc, on voyait les bagarres, les bousculades, etc. Oui, oui. Avec le cyberharcèlement, on ne le voit pas. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup trop d'adultes qui se cachent derrière cela en disant, ben non, ça ne se passe plus dans l'école, ça ne se passe plus dans le collège, ça ne se passe plus dans le lycée, et on ne le voit pas. Ah ben non, il n'y a rien qui se passe.
Avec l'association que vous avez créée, vous avez aidé 100 000 familles et jeunes depuis 3 ans. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
Alors moi je crois beaucoup en la force du témoignage. C'est ce qu'on invite beaucoup à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que moi-même quand je me suis posé la question qu'est-ce que je pouvais faire pour aider les autres, ben, je crois qu'il n'y a rien de mieux que transmettre un témoignage de comment on pouvait s'en sortir du harcèlement scolaire. Moi c'était très ma passion pour le cinéma et le théâtre, ouais. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir insuffler cette énergie auprès des jeunes. Moi ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est que le harcèlement scolaire c'est un passage. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui sont là pour les aider, notre association bien sûr, mais tous les adultes aussi qui les entourent, qui parfois certains peut-être seront moins à l'écoute, mais il faut qu'ils persistent pour trouver un adulte qui sera en effet le confident, mais surtout que c'est un passage, il faut que rien ni personne ne puisse les empêcher de croire en leurs rêves et en ce qu'ils croient.
La certitude du fait qu'il y a une sanction est quelque chose aussi de très important, et aujourd'hui clairement on ne l'a pas.
On ne l'a pas, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes prennent conscience finalement que presque... Bah, je ferais ça, et ben je serais pas puni derrière.
Le sentiment d'impunité des agresseurs, en fait.
C'est ça. Et on est en train de construire des harceleurs sexuels ou des harceleurs au travail en puissance dans quelques années. Ça a été prouvé scientifiquement, la corrélation entre un jeune qui aurait été victime de harcèlement, qui ne serait pas accompagné, qui aura des difficultés à se construire finalement plus tard, à construire une famille, trouver un travail, mais même de l'autre côté, du côté des agresseurs, des harceleurs, il y a une vraie corrélation entre le fait de ne pas avoir été finalement puni, sanctionné et accompagné sur le droit chemin, et plus tard de devenir un harceleur sexuel ou au travail en puissance.
Merci beaucoup Hugo Martinez, fondateur de l'association Hugo. Merci d'avoir pris la parole ce matin. Merci aussi à Frédéric Perruche qui était à vos côtés dans le studio RTL de Lyon. Et on se rend compte à quel point vous avez pu, en dépit des épreuves que vous avez vous-même subies, reprendre votre main en vie et donner un sens à votre engagement. Dans un instant, notre point météo avec Louis Baudin, les grosses têtes et puis la pépite musicale d'Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour.
À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h24, la pépite musicale d'Anthony Martin.
Alors, parmi les nombreuses chansons anglaises qui, après adaptation, ont donné d'immenses succès en France, il y a celle-ci.
Je l'avais en tête sur mon scooter ce matin en venant.
Incroyable. Yellow River de John Christie, devenu l'Amérique pour Jonas, hein, bien sûr. Yellow River est sorti en 1970 et à cette époque-là en Angleterre, eh bien figurez-vous qu'on trouvait dans les grandes surfaces des compilations pas chères du tout de reprises des succès du moment par de jeunes artistes qui galéraient un peu et qui prêtaient leur voix. Leur nom n'apparaissait nulle part sur le disque. Ce qui est intéressant, c'est que dans le lot de ces interprètes anonymes qui arrondissaient leur fin de mois, on a découvert qu'il y avait un certain Reg Dwight devenu Elton John. Elton John a ainsi enregistré anonymement une vingtaine de morceaux, parmi lesquels In the Summertime, Lady d'Arbanville et Yellow River. C'est notre pépite du jour. À 23 ans, Elton John chantait Yellow River. prometteur ce petit jeune. Hein.
Mais oui, il chante bien.
Oui, voilà. C'est un document. Elton John et sa version de Yellow River. Il fallait faire très proche de l'original hein, sur ses compilations. C'est pour ça que la version d'Elton John est très proche. C'est seulement 25 ans plus tard qu'Elton John a regroupé pour la première fois toutes ses reprises de l'époque sur un disque qui n'est jamais sorti en France d'ailleurs. On l'entend donc sur ce disque chanter du Stevie Wonder, du McCartney, du Nina Simone.
Merci beaucoup Anthony. Je rappelle qu'on retrouve vos pépites musicales en podcast sur la nouvelle appli RTL. J'en profite pour vous signaler la sortie du nouveau livre de notre camarade Éric Jean-Jean, Histoire insolite de la chanson française, tous les secrets des chansons de légende aux éditions City. C'est dans la lignée de l'émission Bonus Track chaque soir à 21h sur RTL. Et sachez que tous les auditeurs qui passeront à l'antenne aujourd'hui sur RTL recevront chez eux le livre d'Éric, un excellent livre. Il est sur la couverture, vous ne pouvez pas vous tromper, paru aux éditions City. Chaque après-midi, les grosses têtes nous donnent rendez-vous à partir de 15h30. Habituellement, les sociétaires s'affrontent sur la culture générale. Mais ce matin, c'est une bataille de chansons ch'ti entre Chantal Latsou et Jean-Phi Janssen.
Dors ma petit caca, ma petit poucham, un gros roja. Tu me feras du chagrin, c'est tu ne dors point jusqu'à demain.
Gabi la blonde, une fille aux yeux bleus, lui dit un jour, veux-tu de moi pour maîtresse?
Touche tiki pisse, tu chasses birou d'un chemin. Touche tiki pisse, tu chasses birou d'un chemin.
Deux à deux.
Tous les femmes et putes, tous les femmes et putes, y'a que les hommes qui chantent bon.
3-2
Elbilou ta papa, Elbilou ta papa, Elbilou ta papa, fais plaisir à maman.
3-3
Pour vieux riche, il faut de l'argent, si te veux sortir de ta rang. Travaille.
4-3
Moukotné, boucal va tirer dedans, moukotné.
Bon. Et moi, je dis, faut les donner à la Belgique. Hein.
Elle est ni rôle, qui a ni poitu, elle est ovale comme le trou de main.
5-5 Franchement, non, merci.
Ah
non,
bravo,
et,
hein,
et après,
bravo.
On s'étonne qu'on les confine le week-end.
Vous êtes ch'ti, Isabelle Choquet. Vous connaissez tout ça, vous?
J'en connais certaines,
un certain nombre. Très bien. Bon, alors, rendez-vous de 15h30 à 18h avec Franck Ferrand aujourd'hui, Gérard Jugnot, Jean-Phi Janssen, Christine Ockrent, Valérie Mérès et Bernard Mabille. Bonjour, Louis Baudin.
Bonjour, Yves.
Comment se profile notre météo?
Ah ben, on revient à une situation plus classique. Hein. Plus on va vers le sud, plus on a du soleil. Plus on va vers le nord, plus on a des nuages. Alors, donc, ce soleil dans le sud, de l'Aquitaine aux Alpes à la Méditerranée, là, il dominera avec parfois même un ciel tout bleu près de la Méditerranée. Hein. La Méditerranée qui prend sa revanche, il restera un petit risque d'averse quand même sur la Corse. Mmh. Et puis plus on ira vers le nord, plus on aura un voile nuageux épais, notamment au nord de la Loire, et ça finira même par donner de la pluie. C'est même déjà le cas, je le vois là, sur le Finistère, sur le Cotentin. Quelques pluies entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais cet après-midi, avec un renforcement du vent jusqu'à 70 km/h. Donc on prépare le parapluie dans ces régions du nord-ouest. Les températures, là où le ciel a été dégagé cette nuit, donc du sud-ouest au nord-est, on a encore des gelées. Moins 6 à Rodez, moins 5 à Nevers par exemple. Et cet après-midi, ça remonte un tout petit peu. 7 à 11 degrés dans la moitié nord, 11 à 14 degrés dans le sud-ouest et jusqu'à 16 degrés parfois près de la Méditerranée.
Il est 7h30, merci Louis.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 10 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, si on imaginait la vie d'après, le gouvernement y réfléchit, avec en ligne de mire notamment la réouverture des restaurants. La vie d'après au resto, ce sera souvent en terrasse. Information RTL, ce matin, le gouvernement a accepté un moratoire sur l'interdiction des chauffages d'extérieur. Ils doivent disparaître à la fin de cet hiver. Ils sont prolongés jusqu'à l'été au moins, Armelle Lévy.
Oui, les terrasses dites ancestrales, rattachées au bistrot et au restaurant depuis des années pourront conserver leur chauffage extérieur au moins jusqu'à l'été, même après, si ces chauffages utilisent une énergie verte en gaz ou en électricité pour fonctionner. En fait, la terrasse, dans le plan de réouverture du gouvernement, c'est plus qu'essentiel pour les cafés-restaurants. Ils pourront rouvrir seulement avec un protocole sanitaire strict, en installant les clients assis plutôt que debout et en les installant dehors plutôt que dedans. C'est plus aéré, il y a moins de risques de contamination lorsqu'on retire son masque pour déjeuner ou pour boire son petit café.
Pour l'heure, le nombre de patients Covid en réanimation continue de grimper. En Île-de-France, le seuil des 1000 malades en réa a été franchi hier. La situation reste tendue aussi dans le Dunkerquois. En conséquence, le confinement le week-end qui devait se terminer ce dimanche est prolongé pour 3 semaines supplémentaires jusqu'à la fin du mois. Rien d'étonnant pour le député socialiste Christian Hutin.
nous avons ici à Dunkerque, et j'ai eu le sous-préfet hier au téléphone qui me l'a confirmé, un taux d'incidence qui est au-dessus de 1000. Donc c'est logique, et je ne pense pas que nous pouvions y échapper, mais c'est dramatique aussi pour les Dunkerquois. Bon, et si on veut s'en sortir, il faut vacciner, vacciner, vacciner. Et malheureusement, nous ne sommes pas en possibilité de le faire, ce qui permettrait d'éviter un confinement.
En revanche, le confinement du week-end devrait être levé à Nice. C'est en tout cas ce que réclame le député LR Éric Ciotti.
Nous constatons une amélioration de la situation sanitaire qui, je crois, devrait permettre, comme c'est le cas dans des départements qui ont des taux d'incidence similaires, notamment en Île-de-France, de ne pas subir pour un troisième week-end un confinement qui est très dur. Et on allège légèrement cette contrainte, sachant que toutes les autres vont subsister.
Éric Ciotti avec Marie Mollet.
7h32 dans le Val-d'Oise, deux lycéens sont toujours en garde à vue ce matin après le drame d'Argenteuil.
Ils sont soupçonnés d'avoir frappé et jeté à l'eau l'une de leurs camarades de classe, Alisha. La jeune fille de 14 ans est morte noyée. Il s'agit vraisemblablement d'une affaire de rivalité amoureuse doublée d'un harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est la mère du garçon qui a alerté la police.
Il est venu me voir vers 17h et il m'a dit « Maman, est-ce que tu as fait des bêtises quand tu étais jeune ?» Je lui ai dit « Oui, pourquoi tu me demandes ça ?» Et c'est là où il m'a dit « J'ai tapé sur Alisha et je crois qu'elle est morte. » Je lui ai dit « Je vais aller voir. » Son ami m'a dit « Non, non, de toute façon, ça ne sert à rien, elle est morte. » Et eux, ils sont partis de leur côté. Moi, je suis partie du mien au quai de Seine. Puis ben, j'ai appelé la police. Je me suis dit « Voilà, c'est mon fils, c'est vrai. Mais je ne peux pas laisser comme ça. C'est pas possible. » Après, ben, ça restera toujours mon fils. Hein. Il a 15 ans, il faut qu'il comprenne. C'est horrible.
Témoignage recueilli par nos confrères d'M6. Branle-bas de combat lundi après-midi dans le quartier des Hauts-de-Massane à Montpellier. Une habitante de la cité a trouvé un sac à dos abandonné dans la rue. Comme il se trouvait près d'une école, elle l'a confié à des enfants qui l'ont rapporté à la directrice. Et la stupeur, le sac contenait une cinquantaine de pochons de cannabis que les dealers ont essayé de récupérer. Résultat, le dispositif anti-intrusion a dû être déclenché. Grosse frayeur pour les enfants et leurs parents.
Ils sont restés cachés une heure en dessous des tables. Ils ont eu surtout peur, à mon avis.
C'est le fait de rester sous les tables parce que ça m'a choquée. J'ai très très peur. J'étais parmi ceux qui ont eu les plus peur. J'ai pleuré.
Ben, du coup, nous en avons parlé quand on les a récupérés. Ils ont été un peu rassurés, mais ils se posaient beaucoup de questions. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé.
C'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent ici, donc j'espère que ça va faire bouger les choses, quoi.
Un témoignage recueilli par Patrick Tégéreau pour RTL. C'est un fait rarissime. La reine a répondu hier par un communiqué à l'interview choc d'Harry et Meghan. Elisabeth promet de traiter en privé les accusations de racisme, des accusations qu'elle prend très au sérieux, dit-elle. Elle se dit attristée de découvrir les difficultés passées du couple princier et elle assure que Harry et Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de la famille.
Le football, match retour ce soir pour le PSG qui retrouve le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Oui, ce sera sans Neymar, toujours blessé mais avec un Mbappé au meilleur de sa forme. Les Parisiens l'ont emporté 4-1 à l'aller au Camp Nou. Ils partent donc grands favoris. Maintenant, il y a toujours l'angoisse d'une remontada comme en 2017. Mais il faut oublier, Yves, tout peut s'oublier. C'est un peu ce que dit Marquinhos, le capitaine parisien.
C'est notre chemin dans notre vie, c'est les cicatrices qui restent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a rentré sur le terrain et on ne voulait pas gagner, qu'on n'a pas forcé les choses, qu'on n'a pas voulu se battre. Ce n'est pas vrai. Mais des fois, ça ne passe pas. Ce n'est pas notre journée. Il faut juste qu'on garde notre sérénité, de garder la concentration. Voilà, c'est des leçons qu'on doit le mettre à notre avantage.
Les confidences de Marquinhos, ce micro de Philippe Sansfourche, le capitaine du Paris Saint-Germain, sera l'invité exceptionnel de la matinale d'RTL tout à l'heure à 8h20.
Un coup d'envoi de ce match à 21h, RTL Foot dès 20h45 avec Eric Silvestro pour vivre en direct cette soirée de Ligue des Champions. Sachez que c'est fini, en tout cas pour la Juve de Ronaldo, éliminée hier soir par Porto malgré une victoire 3-2. Le foot ce soir, c'est aussi un match en retard de Ligue 1. Marseille reçoit Rennes. Premier match pour le nouvel entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, qui veut recréer, dit-il, une passion contagieuse, je cite.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une, Isabelle.
Oui, face cachée, très cachée, avec une grande enquête sur les disparus volontaires, ces gens qui partent sans laisser de traces.
Oui, 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 c'est assez troublant comme situation. À tout à l'heure, Isabelle. À tout à l'heure. Bonjour, cher François Langlais.
Bonjour, Yves.
Alors, ce matin, ce n'est pas une hirondelle qui fait votre printemps. Hein.
Et non, c'est une prévision, oui. Celle de l'OCDE, qui nous pronostique un franc rebond pour 2021. Bulletin météo de l'économie dans un instant.
Un franc rebond, j'achète. À tout de suite pour l'Anglais Co avec François Langlais.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
François, un rayon de soleil printanier sur l'économie mondiale, c'est en tout cas ce que nous annonce l'OCDE.
Oui, l'organisation internationale a en effet réévalué ses prévisions économiques pour la planète, passant à plus 5,6% pour l'année 2021. Bon, ça serait évidemment un record depuis la guerre. alors qu'elle ne tablait ici que jusqu'à 4,2. Si l'OCDE a ainsi révisé à la hausse de façon très inhabituelle et très importante, c'est pour deux raisons. Un, le plan de soutien à l'économie américaine, voté il y a trois jours, 1900 milliards de dollars, bon, ça fait quand même 1700 milliards d'euros, qui pourrait rajouter 1% de croissance mondiale en 2021, c'est considérable. Et puis, la progression de la vaccination, quand même, qui laisse entrevoir le retour à la normale.
Alors, faut-il les croire? Les prévisions, vous nous répétez qu'il faut toujours s'en méfier.
C'est vrai, personne ne peut dire précisément de combien sera la reprise, et encore moins si on s'attache à anticiper l'activité précise de tel ou tel pays et non plus de la planète. Mais c'est vrai que le plus dur semble passer, au moins si l'épidémie ne nous réserve pas de nouvelles surprises avec ses variants.
Et alors pour l'Europe, qu'est-ce que ça va donner, François ?
Bah, une nouvelle fois, c'est le continent qui reprendra plus faiblement et plus tard que les autres, en grande partie à cause du retard que nous avons pris dans la vaccination. Le plan de relance américain va faire gagner en moyenne un point de croissance à la planète, mais seulement 0,5% à l'Europe. Quant à retrouver le niveau d'activité de 2019, celui d'avant la pandémie, les États-Unis y seront au second semestre 2021. C'est très bientôt.
Ah bah oui.
Alors que ça ne devrait être qu'à la fin 2022 pour la zone euro. Et la Chine, quant à elle, n'a jamais connu de récession par rapport à 2019, même au plus fort du virus. Quand l'Europe retrouvera tout juste le niveau d'avant la crise sanitaire, la Chine sera donc à plus 15% par rapport à 2019. Vous voyez que l'épidémie va provoquer un rattrapage accéléré de la Chine. Ah oui. Par rapport à l'Occident.
Bon, et la France dans tout ça ?
Pas si mauvais, une fois que la vaccination permettra de retrouver un fonctionnement normal. La Banque de France, est généralement assez fiable, indiquait hier que la France allait connaître une reprise de l'ordre de 5% en 2021, l'une des plus fortes d'Europe et à coup sûr la plus puissante depuis la guerre. Bon, après, il faut dire quand même une récession sans précédent aucun.
Alors aujourd'hui, exactement où en sommes-nous ?
Écoutez, si on s'en tient à la consommation d'électricité, c'est un indicateur intéressant parce qu'il reflète d'assez près l'activité, nous sommes tout près de la normale. La Banque de France estime que la France tourne à 95% de son activité habituelle, ce qui est déjà une performance, compte tenu des restrictions liées à la crise sanitaire. Ça veut dire qu'il s'est opéré de puissants transferts du commerce physique vers le e-commerce, par exemple, et de façon plus générale, de l'activité dite en présentiel vers l'activité à distance. Mmh. Ça vaut pour le commerce, mais aussi pour les restaurants, qui livrent désormais à domicile plutôt que de servir en salle, pour le cinéma, qui se diffuse par le streaming plutôt que sur les écrans des salles obscures. Voilà un an exactement que l'épidémie a frappé l'Europe. Notre économie a fait des efforts d'adaptation considérables pour continuer en limitant les risques de contamination, ce qui lui a permis de retrouver aujourd'hui un niveau d'activité presque normal et augure d'un vif rebond.
Eh bien, vous êtes ce matin annonciateur de bonnes nouvelles. Merci beaucoup François Langlais. Langlais-Co que l'on retrouve bien entendu en podcast sur le site RTL.fr. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, il a rendez-vous tout à l'heure à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Les caisses sont vides à Marseille. Il appelle l'État à l'aide.
Bienvenue à tous les deux. Vous pouvez suivre, bien entendu, comme chaque jour, sur le site RTL.fr, cette interview en vidéo.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Il est 7h44. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan.
Bonjour Benoît Payan.
Bonjour.
Alors si vous montez à Paris, c'est que l'heure est grave. Marseille, c'est 1,5 milliard de dettes et tout le monde s'accorde à le dire, la ville est dans un état catastrophique financièrement. Vous déjeunez tout à l'heure à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous allez lui demander ?
On va d'abord parler de la ville, plus que de lui demander quelque chose. Bien évidemment, on va parler de Marseille, on va parler des Marseillaises, on va parler des Marseillais et de la place de la ville dans le pays. La place de cette ville, une place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, une place qui aurait dû être la sienne. Et j'ai aussi besoin de parler de ça. Il a besoin d'entendre la situation, la vie des Marseillaises et des Marseillais. Et puis, bien évidemment, sa situation financière. Vous l'avez dit, elle est dans le rouge. Elle est
je vous ai entendu dire, je vais aller chercher des chèques avec les dons.
Très compliqué. Je ne parlais pas forcément du président de la République. En tout cas, de l'argent. L'argent, on va le chercher là où il est. Pas forcément quémander quoi que ce soit, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que je ne crois pas à ça. Mais être capable de dire que cette ville peut servir à quelque chose pour le pays. C'est une ville qui a pris sa part dans l'histoire du pays. C'est une ville qui a pris sa part dans l'histoire de France. Et tout au long du XXe siècle, dans les grands fracas de ce siècle, c'est une ville qui a pris. C'est une ville qui a quelquefois été à genoux dans une situation compliquée, qui a vécu des vagues compliquées dans l'histoire de ce pays. C'est une ville qui a apporté quelque chose, qui a apporté sa pierre. Et moi, je veux, comme les Marseillais, qu'elle serve à quelque chose. Je veux qu'elle ait du sens. Et on peut lui redonner ce sens. Et le chef de l'État le sait. Bien sûr qu'on parlera d'une situation.
Le sens dont vous parlez, c'est
difficile.
De l'argent. Excusez-moi d'être aussi terre à terre, mais à un moment donné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Marseille doit rembourser 200 millions d'euros par an, donc 46 millions en intérêts.
Mais bien évidemment, et on le voit, on le sait, on l'a assez dit, et je continuerai de le dire. C'est une ville qui a été mal gérée, pas gérée, qui a été gérée à l'inverse de ce qu'on aurait dû faire. Et on se retrouve dans une situation catastrophique, compliquée. Vous l'avez dit, on rembourse chaque année des millions et des millions d'euros de dettes. Et pour autant, on a des écoles dans un état catastrophique. Quand il pleut dans les écoles à Marseille. Quand il fait froid dans les écoles parce que personne ne s'est occupé de la situation des petites Marseillaises et des petits Marseillais. Oui,
donc
je parlerai
ça, c'est
de
la priorité.
Ça. Oui, je parlerai de ça au chef d'État. De la question du logement et la question des écoles sont deux questions grandement prioritaires. Et puis, il y a évidemment d'autres questions qu'on abordera avec le chef de l'État, mais celles-ci sont prioritaires.
Benoît Payan, juste les écoles, normalement, c'est une prérogative de la commune. C'est-à-dire aucune ville ne demande jamais à l'État de l'aider pour ses écoles.
Mais vous vous rendez compte de la situation qu'on vient de trouver ? On trouve une situation où on a quasiment 500 écoles à Marseille, où je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, je n'ai pas envie de grossir le trait, mais j'ai des rats dans certaines infirmeries. J'ai
ça,
de l'amiante
dans les 500
dans les écoles.
Écoles.
Pas dans les 500 écoles, mais dans beaucoup trop. C'est indigne de la République. Ça n'est pas normal. Que s'est-il passé ces 25 dernières années pour qu'on trouve tout ça dans cette situation ? Donc oui, évidemment, on a besoin d'argent. Sur l'école, il faut mettre sur l'école 1 milliard d'euros sur la table. On a commencé à travailler, on se retrousse les manches. Ce que je veux proposer au chef de l'État, ça n'est pas simplement qu'on nous fasse des chèques, ce n'est pas donnez-nous de l'argent, je ne veux pas sauter sur ma chaise comme un cabri en disant on a besoin d'argent. C'est une question de partenariat. De quoi j'ai besoin ? De quoi est-ce qu'on a besoin ? On
a besoin. Surtout que je me permets, l'État a déjà aidé beaucoup Marseille, sur le périphérique, le L2, sur Euro-Méditerranée, sur l'habitat indigne.
Excusez-moi, Madame Ventura, c'est un projet qui date de 1925. Donc il était temps en 2020 d'avoir vu sortir un projet qui datait de 1925. Et donc la question n'est pas ça. La question c'est encore une fois, je ne veux pas de chèque, on ne veut pas de chèque. Les Marseillais ne font pas l'aumône à personne. Simplement, les Marseillais ne sont pas moins français que les autres. Les Marseillais ont besoin, comme les autres, de la solidarité nationale. Et vous savez, si on s'amusait à regarder ce que l'État fait pour les grandes villes et ce qu'il fait pour Marseille, vous vous apercevriez que c'est peut-être la grande ville de France qui est la moins bien dotée.
Alors donnez-nous
exemples. C'est celle avec laquelle, par exemple, l'État est le moins généreux. Mais encore une fois, on n'attend pas de générosité, on attend de la justice sociale.
Donnez-moi deux ou trois comparaisons.
Par exemple, la question, on est en train de vivre une crise mondiale sur la question du Covid. Et on voit bien que les villes, de partout dans le pays, et encore une fois, ce n'est pas une question de droite, ce n'est pas une question de gauche, se battent sur cette question-là. Nous, on a un bataillon des marins-pompiers, qui est une spécificité marseillaise, qui font la sécurité civile à Marseille. L'État, quand l'État donne 3 euros aux pompiers de Paris, il donne 1 euro aux pompiers de Marseille. Quand, par exemple, on regarde le nombre d'agents de la fonction publique, le nombre de fonctionnaires, le nombre de personnes qui aident les villes à se relever, la ville de Marseille est peut-être une des villes les moins bien dotées. Et quand on parle avec les gens se disent « Oh là là, Marseille, il y a beaucoup de fonctionnaires. » Bien sûr, mais moins qu'ailleurs. « Oh là là, Marseille, il y a beaucoup d'argent public. » Mais moins qu'à Marseille, mais moins qu'ailleurs.
Excusez-moi, ça fait des années qu'on parle que Marseille doit faire le ménage dans sa propre administration.
Bien sûr.
Réorganiser son personnel municipal.
Et on le fait. Et on le fait.
61 millions d'euros d'économie, vous auriez pu faire, c'est ce que dit, enfin pas vous, Marseille, c'est ce que dit la Cour régionale des comptes dans la gestion du personnel.
C'est pour ça qu'on s'est battu.
61 millions d'euros.
Et c'est pour ça que les Marseillais ont voté pour nous, parce que justement, ça n'avait pas été géré. Mais encore une fois, quand on en appelle à la solidarité de l'État, ou quand on dit on a besoin de justice, il ne s'agit pas de dire donnez-nous de l'argent à fond perdu. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que l'État, en réalité, s'est tout le temps dit mais on va donner de l'argent à ces gens-là, mais ils vont en faire quoi ? Qu'est-ce qui se passe à Marseille quand on aide Marseille ? On ne voit rien venir. C'est ça qu'il faut arrêter, Madame Ventura.
Alors justement, mais comment vous êtes sûr que l'argent va arriver là où on en a besoin à Marseille ?
Parce qu'on est prêt à dire à l'État.
Ça, c'est une révolution à Marseille.
Exactement, parce qu'on est prêt à dire à l'État, mais nous, on va faire la transparence. Venez voir ce qui se passe. Encore une fois, on a besoin de la puissance de l'État pour dire, pour nous aider à reconstruire une école, pour nous aider à rénover une école. Venez faire ça avec nous. Venez nous aider.
Et donc, c'est un haut fonctionnaire.
C'est avec.
Désigné par Emmanuel Macron qui va venir.
Je ne crois pas, ça s'appelle une tutelle, ce que vous décrivez. Mais bien
Marseille
au contraire, ça s'appelle. Je ne le crois pas, et je suis même persuadé du contraire, il ne s'agit pas de ça. Encore une fois, les Marseillais ont pris leur destin en main. Mais justement, nous voulons, je souhaite qu'on renoue avec avec une forme de normalité. Moi, j'ai besoin qu'on reparle de Marseille en des termes positifs, parce que les Marseillais en ont besoin. Ils sont fiers de leur ville.
Alors,
on est fiers de notre ville. On veut simplement ne pas être traité moins bien que les autres.
Alors, Benoît Payan, vous demandez donc 1 milliard pour les écoles. Pour le logement, on a vécu il y a 2 ans un drame difficile rue d'Aubagne, 8 morts. Quand on passe là-bas, on a l'impression que la ville est en guerre. Hein. J'y suis passé il y a peu. 95 000 personnes dans des logements insalubres à Marseille.
Vous vous rendez compte de ce scandale ? Une personne sur 10 vit dans un logement indigne ou insalubre à Marseille. C'est une question de salubrité publique majeure. On s'est exprimé à plusieurs reprises.
Mais vous, vous avez
engagé des choses déjà ? Ou vous ne pouvez pas financièrement ? Mais nous, on ne fait plus que ça. On s'occupe évidemment de ces urgences, des écoles et du logement. Et encore une fois, là, pour le coup, l'État est au rendez-vous avec la création d'une très grande société qui va être chargée, une société publique locale, qui est chargée de cette rénovation. Mais il faut y travailler au quotidien. Il faut que les collectivités se mettent autour de la table, et c'est ce qu'elles font. Vous avez vu cette situation, vous avez vu l'indignité de ma ville, dans le silence d'ailleurs, des pouvoirs publics. Et encore une fois, bien évidemment, des élus marseillais de cette majorité, mais de l'État aussi. Combien de fois a-t-on dit il va y avoir quelque chose de dramatique? On a vécu un des pires drames que puisse vivre une ville. C'est une ville qui s'est effondrée sur elle-même. C'est une ville qui, encore une fois, là, pour le coup, l'État n'a pas été au rendez-vous. Et je le regrette fortement.
Benoît Payan, vous allez vendre le stade Vélodrome?
Mais écoutez, quand l'Olympique de Marseille sera prêt à acheter le stade Vélodrome, quand
mais
ça ira mieux...
Prêt.
Mais quand. Mais d'abord, on en discutera. On est dans le Covid. On va essayer de laisser passer la crise à l'Olympique de Marseille. Et puis ensuite, on verra. Encore une fois, regardez le stade Vélodrome. C'est un exemple de la gabegie. On parlait de comment est-ce qu'on finance les choses à la ville de Marseille. Mais pour le même stade, qui est un beau stade, au boulon près, on aurait pu payer des millions d'euros de moins. Pourquoi ? Parce qu'on a été capable d'aller acheter de l'argent à Marseille à 8,5% quand vous-même ou M. Calvi aurait pu aller à la caisse d'épargne du coin et le payer à 4,5%. Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Mais ça fait sourire. Moi, ça... Ouais. Mais moi, ça, vous comprenez que c'est une meurtrissure, ce fonctionnement.
Il coûte 7,6 millions d'euros par an aux contribuables, le stade Vélodrome. Vous avez eu une passe d'armes avec le ministre de l'Intérieur sur les caméras de surveillance. Vous avez refusé une subvention. Pourtant, la police dit que c'est un outil indispensable pour lutter contre...
Non, mais ça, c'est de la polémique et ce n'est pas tout à fait vrai.
Alors, dites-nous ce qui est vrai.
Il n'y a personne qui refuse de subvention à Marseille. Le sujet n'est pas celui-là. À Marseille,
vous ne l'avez pas refusé, la subvention ?
À Marseille, non, c'est plus compliqué que ça. À Marseille, on a des caméras de vidéosurveillance, beaucoup, dont beaucoup ne fonctionnent pas, dont beaucoup ne servent à rien. Et d'ailleurs, on a demandé un moratoire, parce que quand on regarde comment ont été installées les caméras de vidéosurveillance à Marseille, on prend peur. Là, encore une fois, les choses ont été faites en dépit du bon sens. Il y avait des demandes politiques, des élus disant, moi, dans ma circonscription, moi, dans mon quartier, comme les habitants me les demandent, je veux mettre des caméras. Mais à chaque fois qu'on installe une caméra, c'est des dizaines de milliers d'euros de fonctionnement. On en a des centaines qui ne servent à rien. Et donc, quand il y a des caméras qui servent à quelque chose, aux abords des écoles, quand il y a des caméras qui servent à dénouer des enquêtes, qui aident les policiers, pourquoi pas ? Mais encore une fois, étendre la vidéosurveillance de manière inconsidérée, ça ne sert à rien. Et vous savez ce qui sert à Marseille, Alba Ventura ? C'est des policiers.
Oui,
c'est recruter des... Exactement. Et donc, les caméras, elles servent des fois à arrêter les voleurs. Elles n'ont jamais elles-mêmes arrêté les voleurs. Surtout quand elles sont
éteintes. Le ministre Gérald Darmanin a annoncé un renfort de policiers chez vous à Marseille.
C'est très bien. Et j'en ai pris acte. Et je trouve qu'il a bien fait.
Benoît Payan, on parlait tout à l'heure des affaires de gestion de personnel. Et c'est pour avoir fait travailler des proches ayant dépassé l'âge de la retraite que Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire, a été placé en garde à vue mi-février. Est-ce qu'il doit être poursuivi ?
Mais ça, c'est le parquet qui le dira, c'est la justice qui le dira. C'est une enquête qui dure depuis longtemps, qui a été déclenchée il y a un certain nombre d'années maintenant. Je crois que la justice suit son cours, apparemment. Elle avance, on va la laisser faire. Il ne m'appartient pas, moi, aujourd'hui, au moment où je suis maire de Marseille, et dans cette situation, de commenter ou de venir gérer l'enquête, ou de venir surtout gêner l'enquête. Ça, il y a des gens qui le font bien mieux que moi.
Il y a une question que se posent évidemment tous les Marseillais. Même avec les aides de l'État, beaucoup se disent qu'à Marseille, vous finirez par augmenter les impôts.
Moi, je ne me résous pas à ça. Dans la ville...
Vous n'êtes pas très précis sur la taxe foncière.
La plus absolue, mais... Une mesure... Combien de temps il me reste, là, Alba Ventura, pour vous parler ?
Très peu.
Alors, on n'aura pas le temps d'y répondre concrètement, mais je vais vous dire les choses en deux mots. Normalement, dans cette situation, j'aurais dû augmenter les impôts. Et parce qu'il n'y a pas le choix. Mais je ne le ferai pas.
Vous le jurez la main sur le cœur ?
Ça, c'est... Je laisse ça à ceux qui racontent du pipeau ou à ceux qui racontent des histoires. Je viens de vous dire, à votre micro, que je ne le ferai pas.
Très bien, merci beaucoup Benoît Payan, c'est noté.
Le maire de Marseille qui s'engage à ne pas augmenter les impôts, mais qui nous rappelle que le logement et les écoles sont au cœur de ces difficultés. J'ai des rats dans certaines de mes infirmeries de nos écoles. Les Marseillais ne font pas l'aumône, nous avons tout simplement besoin de justice sociale, vient de nous dire Benoît Payan. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant, Cyprien Sini surfe avec les réseaux sociaux et nos responsables politiques. A tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
7h57, Cyprien, ce matin, vous surfez avec nos responsables politiques et la jeunesse.
Eh oui, les amis, fut un temps où pour séduire la jeunesse, les politiques innovaient avec des émissions de télé. 1985, François Mitterrand se lance.
Vous savez ce que c'est que Chebran ? C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu, je vais pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé.
Ah, bien senti, ça, câblé, un franc succès. Sauf que 37 ans plus tard, eh ben, on est câblé à des années-lumière de tout ça. Alors, soucieux de mieux vous faire comprendre notre époque, le surf de l'info a enquêté. Twitch, TikTok et Instagram, la face cachée de l'enfer de la communication politique. Et oui, car désormais, le Graal du politique, c'est donc devenu le net, et notamment...
À suivre également sur Twitch.
Nos ministres sur Twitch.
Twitch. Pas facile à dire ça, Twitch. Alors normalement, à la base, sur le réseau social Twitch, on parle comme ça.
Et du coup, Hunter, là, pour le moment, qui a eu des games difficiles, malheureusement, il n'a pas drop de shield sur pas mal de games.
Oui, on n'a pas de drop de shield sur pas mal de games. Cherchez pas, c'est un truc de jeu vidéo. Mais alors, pour parler aux jeunes, les politiques essaient de s'en emparer quand même. Et cette semaine, avec le journaliste Samuel Etienne, François Hollande y est allé de bon cœur avec cette confession spéciale Jones.
Booba, je voyais, vous écoutez Booba ?
Ouais,
j'écoute Booba.
Qui vient sortir un nouvel album.
Voilà,
Ultra, l'album de Booba.
Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le.
Vous voyez François Hollande en train d'écouter ça,
sûr, il tape sur du scoot. Pied en écoutant Booba. Voilà.
Voilà. Opération séduction et gros succès, alors qu'au gouvernement, Gabriel Attal aussi, bah, il a essayé en invitant des influenceurs dans un décor très, voire trop conventionnel.
Ici, réunis à l'Elysée, en direct sur Twitch. Et on est réunis ici, pourquoi ? Si on pouvait enlever la musique, ce serait peut-être pas
mal. Et sans journaliste, hein, surtout, c'est pratique ça. Sauf que, et ben même l'influenceuse Enjoy Phoenix, ouais, voilà, cherchez bon pas, vos enfants sont fans, a remarqué qu'il y avait un truc qui clochait.
En soi, je suis juste porte-parole. Moi, je suis pas journaliste. D'ailleurs, je trouverais ça super que la prochaine fois, il y ait un journaliste qui soit là pour rétorquer parce que c'est pas mon métier. La prochaine fois, inviter un journaliste.
Et oui, Gabriel Attal, pris à son propre jeu, se faire engueuler par Enjoy Phoenix. Mais c'est pas grave, hein. On parle aux jeunes comme des jeunes, à l'image de Bruno Le Maire avec le youtubeur Hugo Travers.
Moi, je voudrais que n'importe quel Français se dise « Putain, je suis Français ». C'est la classe.
Ouais, c'est la classe. Et sur TikTok aussi, bah, ils sont en roue libre, hein, de Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé.
C'est pas la capitale, non, c'est Marseille, bébé.
À Marlène Schiappa.
Salut, jeune entrepreneur. Je m'appelle Marlène
Schiappa
et j'arrive sur TikTok.
Waouh ! En passant par le président et cette sortie mémorable.
Vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. Aujourd'hui, profitez, fêtez le baccalauréat. Et après, bon courage.
Ouais, bon courage les gars. Et puis bon courage à nous aussi, puisqu'apparemment, il va tous falloir qu'on s'y mette pour rester câblés.
On vous retrouve ce soir à 18h avec Thomas ?
Absolument, le monde de demain.
À tout à l'heure,
c'est Cyprien
Sini. Merci beaucoup, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, cette nouvelle étude qui penche en faveur des lieux de culture.
Les cinémas et les théâtres ne sont pas des lieux de contamination. Les détails dès le début de ce journal. Le drame d'Argenteuil qui réveille le poison du cyberharcèlement chez les jeunes. Et le super éthanol, carburant écolo et moins cher, bientôt accessible à tous.
La météo, Louis Bodin.
Et le retour de la pluie dans le nord-ouest, près de la Manche. Ça y est, ça commence. Donc il pleuvra au cours de la journée entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Ça arrivera ce soir sur l'île de France, sur le Val de Loire. Dans les autres régions, encore du temps sec et même très ensoleillé dans le sud, notamment près de la Méditerranée, avec l'aide d'un petit peu de vent, un peu de mistral et de tramontane, vent qui soufflera également assez fort près de la Manche. Puis les températures, toujours dégelées en ce moment, du sud-ouest au nord-est, mais cet après-midi, ça remonte légèrement. 7 à 11 degrés dans la moitié nord, 11 à 16 dans le sud.
Merci Louis.
RTL Matin.
Voilà une dernière étude qui va donner du grain à moudre à tous ceux qui défendent la réouverture des théâtres et des musées. Le risque de contamination y est très limité. Ça se confirme. Odile Pouget, on fait le point sur cette enquête menée par l'Institut Pasteur.
Si vous devez assister à des cours en amphi, si vous allez régulièrement chez le coiffeur, faire des courses, si vous fréquentez un lieu de culte, vous n'avez pas, selon cette étude, de risque plus important de contracter le virus. Même observation pour les transports en commun, probablement parce que les gestes barrières y sont également respectés. Attention en revanche au covoiturage. Le risque de transmission du virus y est augmenté de près de 60%. Espace clos et proximité des passagers ne font pas bon ménage. Si vous pratiquez le télétravail, sachez, même si cela vous pèse, que cela vous protège. 30% de risque en moins d'être infecté par rapport à vos collègues qui vont au bureau. Enfin, si vous rêvez de retourner au cinéma, au théâtre ou au musée, l'étude portant sur le seul mois d'octobre avant leur fermeture démontre que ces lieux ne sont pas particulièrement propices à la contamination tant qu'on y observe un protocole sanitaire très strict.
Odile Pouget, et dans les EHPAD, on est en train progressivement de renouer avec la vie d'avant grâce à la vaccination. 95% des pensionnaires ont reçu une première injection dans cette maison de retraite de Créteil, près de Paris. Fini donc l'époque où chacun restait dans sa chambre, Nerissa Imani.
Oui, dans la grande salle de restauration, seul terrain de jeu de l'établissement, ils sont une quinzaine de résidents attentifs.
Comment s'appellent les fleurs qui poussent dans la neige ?
Les édelweiss.
Non.
Les personnages.
Les personnages, bravo.
Les trois étages de la résidence sont mélangés pour ce quiz, et ça grâce à la vaccination. Après 5 mois séparés, Eva et Romy, 87 et 75 ans, se retrouvent enfin.
Moi, je suis contente de retrouver mes amis qui sont au deuxième.
C'est un premier pas, moi je suis vaccinée, c'est bien maintenant. Qu'on puisse faire des choses ensemble, c'est bien, comme aujourd'hui par exemple, c'est agréable. Parce que sinon, à notre étage, on n'était toujours que 2 ou 3.
Vélada, la chef de l'animation, a surtout vu réapparaître le sourire des résidents.
On a pu faire les mêmes propositions à une époque, et les résidents ont boudé nos activités parce qu'ils n'étaient plus avec leurs amis. C'était difficile, et en sachant là qu'ils pouvaient se remélanger à nouveau, et ben n'importe quelle petite activité, ils s'étaient tous redescendus. Mais pour se revoir, c'était touchant.
Des ateliers de pâtisserie et même des karaokés, masqués bien sûr, sont désormais organisés pour le plus grand plaisir de tous.
Un reportage signé Nerissa Imani. Quant à la vaccination des soignants, les choses progressent un peu. L'appel d'Olivier Véran commence à porter ses fruits. 46% des personnels en EHPAD ont été vaccinés contre 40 la semaine dernière. Hors EHPAD, c'est monté à 36%, 6 points de plus en une semaine.
Ben voilà, il est 8h04, deux adolescents toujours en garde à vue après le drame d'Argenteuil.
Une jeune fille de 14 ans retrouvée sans vie dans la Seine après avoir été tabassée. À l'origine, visiblement, une obscure rivalité amoureuse entre collégiens sur fond de cyberharcèlement. Des photos de la victime dénudée auraient circulé sur les réseaux sociaux. Ces réseaux qui, on le vérifie encore, peuvent devenir des armes redoutables. En cas de photos embarrassantes, humiliantes, il faut intervenir vite à la racine, ce que fait l'association e-enfance, sa directrice Justine Atlan, avec Anne Le Hénaff.
On a vraiment une urgence de temps à stopper cette diffusion massive. Donc la première chose à faire, c'est de signaler en fait le contenu en question sur la plateforme concernée. On a des accords avec les réseaux sociaux pour les plus anciens comme Facebook, ça fait 10 ans. On a des partenariats avec eux très solides. On fait un travail de pré-modération pour eux. On a un canal de signalement qui est prioritaire parce qu'on est tiers de confiance et deux, parce qu'on s'occupe uniquement des mineurs, donc des enfants ou des adolescents qui sont victimes. Et donc évidemment, comme c'est une population beaucoup plus fragile que les adultes, alors ils doivent être traités avec encore plus de priorité. On fait ça extrêmement rapidement pour justement éviter que ces contenus se diffusent à grande échelle et créent malheureusement en bout de chaîne des drames comme celui qu'on connaît aujourd'hui.
Et pour joindre cette association, il y a un numéro vert, le 0800 200 000.
Dans un instant, une bonne nouvelle, le carburant le moins cher, le super éthanol, bientôt pour tous. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. À l'heure où les prix à la pompe ont repris de la vigueur, voilà une nouvelle qui devrait vous intéresser.
On en parle souvent sur RTL. Le super éthanol, ce carburant plus écologique et moins cher, gagne de plus en plus d'adeptes. Seul hic, il faut d'abord installer un boîtier spécial sur sa voiture. Un boîtier qui doit être homologué. Mais un décret du gouvernement vient de faire sauter ce dernier obstacle, Éric Vanier.
Oui, ce décret autorisera à partir du 1er avril la pose d'un boîtier de conversion au super-éthanol sur presque toutes les voitures et camionnettes, y compris les gros cylindrés, y compris celles qui sont équipées d'un filtre à particules, mises en circulation après 2001 et qui fonctionnent à l'essence. Ça devrait donner un coup de fouet à cet agrocarburant élaboré à partir de la fermentation de betteraves sucrières, de maïs ou de blé, très peu utilisé jusque-là malgré un prix à la pompe, défiant toute concurrence, 69 centimes le litre, car les taxes qui lui sont appliquées sont faibles. Mais attention, avant de vous précipiter, comptez au départ un investissement d'environ 1000 euros pour l'achat et la pose de ce boîtier de conversion. Sachez aussi que vous consommerez plus, qu'il n'y a pour l'instant qu'un quart des stations équipées de pompes E85 et que ce n'est pas le carburant parfait au plan environnemental, notamment en termes d'émissions de CO2, pas autant en tout cas que la voiture électrique, même si par rapport au pétrole, les biocarburants restent beaucoup moins polluants.
Éric Vanier, à Strasbourg, l'incendie qui a détruit ce matin une partie de l'entreprise OVH, spécialisée dans les serveurs informatiques, est maintenant circonscrit. Une centaine de pompiers étaient mobilisés. Il n'y a pas de victimes et le site n'est pas classé Céveso, précise la préfecture.
Se faire une toile à Paris, c'est désormais possible.
Un concept unique au monde et qui tombe à pic alors que les salles de cinéma sont toujours fermées. L'hôtel Paradiso ouvre aujourd'hui dans la capitale. Comme son nom l'indique, c'est un hôtel, mais où chaque chambre est équipée d'un grand écran. Stéphane Boutsock, le Vénard, y a passé la nuit.
Accolé au cinéma MK2 Nation, l'hôtel Paradiso s'étend sur 7 étages, répartis en 34 chambres toutes différentes, qui amènent le cinéma jusque dans votre lit, grâce à un écran de 3 à 10 mètres carrés et un système sonore similaire à celui d'une vraie salle. Chaque réservation, de 100 à 450 euros selon la catégorie, vous donne droit à 2 places pour aller voir un film au ciné quand ce sera de nouveau possible, mais l'établissement propose surtout des services haut de gamme privilégiés. Par exemple, l'accès à une loge vitrée donnant dans une des salles du multiplex pour assister à une projection dans un fauteuil grand confort. Dans les deux suites de l'hôtel, vous disposez carrément de votre salle privée, pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. Elisha Karmitz, directeur des lieux, vous fait la démonstration.
Donc là, on retrouve des sièges pour deux. On s'est installé pour regarder notre film, on se saisit de la tablette. Et donc ici, il y a une petite fonctionnalité qu'il n'y a pas dans les autres chambres, qui permet d'accéder directement au serveur central du cinéma. Et si je veux lancer, par exemple, le dictateur de Charlie Chaplin, je vais regarder le film. Hop. Donc les lumières se baissent, l'écran descend, le projecteur s'allume et le film va se lancer.
Et quand la situation sanitaire le permettra, l'hôtel Paradiso proposera également des projections en plein air sur son toit-terrasse, offrant une vue panoramique somptueuse sur Paris.
Stéphane Boutsock, on réserve Yves
Avec plaisir.
Je vous invite. En football, le PSG, on prendra des chambres séparées. Le PSG veut s'éviter ce soir un film d'horreur, celui de la remontada. Près d'un mois après leur large victoire face au Barça, les Parisiens retrouvent les Catalans en 8e de finale. Retour de Ligue des Champions, match à vivre sur RTL à partir de 20h45. À noter également les qualifications hier soir de Dortmund et du FC Porto qui a tenu le choc face à la Juventus de Cristiano Ronaldo.
Et à 8h20, cet invité exceptionnel d'RTL, Marquinhos, le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain, qui se confie à quelques heures de la rencontre au micro de Philippe Sansfourche. C'était le journal de Jérôme Florin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h11. Jean Castex soulignait encore la semaine dernière que notre pays était l'un des rares à proposer des tests gratuits. Vous avez peut-être entendu notre reportage dans le journal de 7h où des Allemands se précipitaient dans les supermarchés low cost pour acheter 5 tests pour 25 euros. 5 tests pour 25 euros. Nous allons donc faire un tour d'Europe des tests avec notre brigade de l'actualité. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour à tous.
Du service étranger d'RTL. Bénédicte, en Allemagne, le test n'est pas gratuit. Hein.
Alors, depuis lundi dernier seulement. Les Allemands ont maintenant droit à un test antigénique gratuit par semaine. Sinon, un Allemand doit débourser, selon les Länder, c'est par exemple 150 euros à Berlin. En revanche, c'est totalement gratuit en Bavière depuis le 1er juillet. Vous voyez, ça dépend des régions.
Ah bah oui.
Les autotests en supermarché vont aussi débarquer prochainement en Suisse et ils sont gratuits en Autriche. Comme en France, ça ne coûte rien de se faire tester en pharmacie en Belgique. En revanche, en Espagne, il faut payer 60, 120 euros, sauf si vous avez des symptômes et une ordonnance médicale, mais il faut vraiment vous sentir mal pour y avoir droit.
Et en Grèce, il faut être chanceux. Hein.
Ah oui, les Grecs doivent s'inscrire sur un site internet et être tirés au sort s'ils désirent un PCR gratuit.
C'est bon.
Sinon, c'est 60 euros dans un labo et 20 euros pour un antigénique en pharmacie. Et encore, le gouvernement a fixé un plafond en décembre dernier parce que les prix s'envolaient dans les structures privées. Au Royaume-Uni, il faut aller chez le pharmacien pour un test PCR. Il faut débourser 133 euros. Un test salivaire, ce n'est que 100 euros sur internet. Et le chic du chic, c'est pour vous, ça, Yves, c'est oui. À Londres, avec ce laborantin qui vient chez vous pour vous tester, avec un résultat assuré dans les 24 heures, ça ne vous coûtera que 389 euros. Je suis précise.
Oui.
Et tout ça sont des prix pris au hasard, il n'y a aucun plafond fixé par le gouvernement britannique.
On regarde un peu plus loin, Médélite.
En Afrique, par exemple au Gabon, là-bas les caisses se sont vidées pour payer des tests gratuits pour tous les Gabonais, alors les autorités ont mis le holà. C'est payant désormais un peu plus de 7 euros pour un test ordinaire, 4 fois plus pour un test d'urgence. Enfin, aux États-Unis, c'est gratuit, sans rendez-vous si les Américains passent par le système hospitalier. En revanche, c'est 200 dollars, 170 euros dans le privé, que vous alliez dans un labo ou que le laborantin vienne à votre domicile.
Merci pour toutes ces informations, Bénédicte Tassard. On retrouve la brigade de l'actualité dès demain matin, 4h30, dans RTL Petit Matin, avec Julien Cellier, Marina Giraudot et toutes nos équipes. Dans un instant, la fake news de Jean-Mathieu Pernin. Cela concerne aujourd'hui les enseignants et la vaccination.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Il est 8h16. Bonjour Jean-Mathieu Pernin.
Bonjour.
On regarde ce qui se passe du côté des intox et des fausses informations grâce à vous. Alors aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer avait-il pour objectif de vacciner les enseignants au mois de mars ?
Oui, nous y sommes, hein, au mois de mars. Alors il paraît que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors vérification faite avec Jean-Michel Blanquer. Dans une interview au journal Le Monde datée du 9 mars, le ministre de l'Éducation nationale, eh bien, interrogé sur la vaccination du corps professoral, explique, je cite, « Les professeurs de plus de 50 ans sont concernés quand ils ont des comorbidités. Mais la logique actuelle n'est pas d'ajouter un critère professionnel au critère de santé. » Avant de préciser, je poursuis les échanges avec Olivier Véran concernant la stratégie globale de vaccination. Bon, alors une dernière phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est en fait une manière pour Jean-Michel Blanquer de couper l'herbe sous le pied à Jean-Michel Blanquer. Puisqu'en effet, le 3 janvier dernier, voilà ce que le ministre déclarait sur BFM.
Je travaille pour que ce délai s'accélère de façon à ce que les professeurs puissent être vaccinés dès que ce sera possible. Ce serait souhaitable, disons, au mois de mars au plus tard. Si on arrive à le faire avant, ce serait bien.
Voilà, puis deux jours plus tard, sur Europe 1, Blanquer évoque la vaccination des enseignants très bientôt.
En tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir commencer au mois de mars, si possible.
Voilà, finalement, ce sera une vaccination comme tout le monde, mais les discussions continuent, c'est sûr.
Bon, pourquoi y a-t-il eu marche arrière sur la vaccination des soignants ?
Eh bien, en fait, le 1er mars dernier, le ministre de la Santé est invité au journal de 20h de France 2. Il explique que seuls les soignants et les sapeurs-pompiers peuvent bénéficier d'une vaccination anticipée. Les professeurs âgés d'un minimum 50 ans et qui ont une fragilité peuvent aller se faire vacciner comme tous les autres Français. Porte claquée au nez des enseignants qui estiment, eux, être en première ligne face aux élèves au toux et au reniflement insistant. Et pourtant, le 15 décembre dernier, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, recommandait de vacciner les enseignants en priorité. C'est le cas en Russie, au Brésil, ça commence aux États-Unis et en Allemagne. En France, on attend.
Alors, reste une question, comment décide-t-on qu'une profession est prioritaire ?
Eh bien, le journal La Dépêche du Midi a interrogé Pascal Crépet. C'est un enseignant-chercheur épidémiologiste à l'École des hautes études en santé publique de Rennes qui explique deux facteurs justifient la priorisation, le risque de faire des formes graves de Covid-19 et le risque d'exposition. Les enfants donc seraient moins à risque. De plus, le gouvernement refuse la priorité d'une profession sur une autre. Mais les échanges se poursuivent. Jusqu'à quand ? On ne sait pas.
Merci Jean-Mathieu, à demain matin. Dans un instant, Michel Siemes va nous aider à prendre soin de nos oreilles, ce qui évidemment en matière de radio est assez important. A tout de suite.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Siemes.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Alors ce matin, vous avez des conseils à donner à ceux qui entendent mal pour cause de bouchons de cérumen.
Oui, vous venez de donner l'un des symptômes du bouchon de cérumen, la baisse d'audition. Oui. Mais il y en a d'autres. Parfois, les choses se manifestent par un bourdonnement, des acouphènes. Vous pouvez aussi avoir l'impression que vous avez un poids dans l'oreille, qu'elle est trop pleine de quelque chose ou encore ressentir des démangeaisons. Mm-hmm. Ce sont quelques-uns des symptômes du bouchon de cérumen et non pas de célimène, comme j'ai déjà entendu. Et comme ça n'est pas si grave, vous pensez pouvoir vous en débarrasser tout seul. Et c'est là que commencent les problèmes.
Ah bah, il y a des choses à éviter de faire en cas de bouchon de cérumen, c'est
alors, ça ? Oui, surtout deux particulièrement. La première, c'est d'avoir recours au fameux coton-tige. J'en déconseille l'utilisation.
D'accord.
Tout ce que vous parviendrez à faire, c'est tasser le cérumen et enfoncer le bouchon un peu plus loin dans le conduit auditif. Il sera d'autant plus compliqué de l'en déloger. Il va de soi que ce que je vous dis pour le coton-tige vaut pour tout autre objet du même acabit, le trombone, l'allumette, le capuchon de votre stylo bic. Je pourrais continuer l'énumération. Oui. Vous allez me trouver original, mais je ne fais là que décrire l'originalité de certains patients plutôt mal inspirés pour le coup, sans compter que ça peut entraîner des infections.
Bon, alors quelle est la seconde chose à éviter, Michel ?
Vous savez, l'utilisation des petites bougies auriculaires, là, vous avez entendu parler de ça, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de la manip qui consiste à exposer le conduit auditif à une flamme ou à un accessoire qui chauffe en espérant aspirer le bouchon. Le résultat, ce sont des brûlures et donc des complications. Donc on garde les bougies pour son gâteau d'anniversaire et on oublie cette technique.
Alors, la solution, c'est de consulter, non ?
Bah, pas forcément, parce qu'il est possible de dissoudre le bouchon. Il existe en pharmacie des produits à usage local. Vous faites tiédir un peu de sérum physiologique dans le creux de votre main. Ensuite, vous laissez couler le produit dans le conduit de l'oreille qui pose problème et vous restez la tête penchée pendant une dizaine de minutes. Oui. Quand vous redressez la tête, vous essuyez le produit qui ressort de l'oreille. En fonction de sa couleur, vous allez vite savoir si le bouchon de cérumen est résigné à se rendre petit à petit. D'accord. Je dis petit à petit parce qu'il faut renouveler l'opération pendant plusieurs jours. Mais attention, tout le monde ne peut pas se livrer à ce rituel.
Ah bon, que voulez-vous dire ?
Bah, si votre tympan est perforé parce que vous avez accumulé les otites ou parce que vous avez subi un traumatisme quelconque, je vous déconseille d'introduire quelque liquide que ce soit dans votre oreille. Oui. Vous vous exposeriez à des complications et in fine à de potentielles séquelles auditives. Vous pouvez, si vous avez souvent des bouchons, plutôt voir votre médecin traitant ou un otorhino qui pourra vous retirer ça facilement. Voilà, j'espère sur ce sujet avoir eu votre ordre.
Oui, et rendez-vous chez l'ORL.
Voilà.
RTL. Nous vous en parlons depuis 7h ce matin. Une interview exceptionnelle à suivre dans un instant sur RTL. Marquinhos, le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain. Il se confie à Philippe Sanfourche à quelques heures du match. PSG-Barcelone, c'est ce soir au Parc des Princes et bien entendu sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Document RTL.
Il est 8h24. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Le Paris Saint-Germain a un travail à terminer ce soir. Trois semaines après avoir enchanté ses supporters à Barcelone. Victoire 4-1, on le rappelle. Triplé mémorable de Kylian Mbappé. Pas de blague. Il faut valider le billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain et son capitaine Marquinhos ont choisi RTL pour un entretien exclusif. Est-ce que Marquinhos, Philippe, vous a rassuré ? Quels sont les signes qui peuvent nous laisser penser que cette fois-ci, il n'est pas question d'une remontada ?
Bah, écoutez, déjà le fait d'obtenir cet entretien, c'est assez rare et précieux. En ce moment, vous savez que ça fait un an qu'on ne voit plus les joueurs. Ce soir, au Parc des Princes, après la rencontre, il n'y aura pas la traditionnelle zone mixte où on peut s'expliquer avec les joueurs pourquoi la victoire, pourquoi la défaite. On ne les voit plus depuis un an, ils sont totalement cloisonnés. Et là, le Paris Saint-Germain et Marquinhos, donc le capitaine, ont décidé de se livrer, de nous faire rentrer dans la bulle sanitaire, au camp des loges, parce que c'est logique en ce moment, précaution totale. Bien donc sûr. J'ai dû passer un test, distanciation évidemment, respect très strict des règles sanitaires pour cet entretien. Et c'est pas anodin d'accepter cette interview à ce moment-là, parce que c'est aussi le signe qu'on veut désacraliser, on ne veut plus rentrer dans la psychose de ces remontadas et avoir, j'ai envie de dire, un discours assez juste, assez équilibré par rapport à ce qui s'est passé la remontada en 2017, mais aussi l'autre gadin mémorable de Manchester en 2019, avec des causes très différentes. Dans le premier cas, il y avait ce Barça que les joueurs du PSG regardaient finalement comme des petits garçons avec des yeux apeurés. Oui. Et puis deux ans plus tard, un excès de confiance totale face à Manchester United. Là, on a l'impression que les choses sont plus équilibrées. Et c'est assez symbolisé, je trouve, par ce joueur qui est Marquinhos, qui a 26 ans, 8e saison au PSG, et qui va jouer ce soir son 62e match de Ligue des Champions. Donc il commence à avoir une certaine expérience. Bonjour Marquinhos.
Bonjour.
Le PSG a sûrement livré l'un de ses meilleurs matchs de son histoire européenne il y a trois semaines. À Barcelone, victoire 4-1, mais trois semaines, c'est long. Et ça avait suffi, on s'en souvient, il y a quatre ans, à remobiliser le Barça pour sa fameuse remontada. Comment ne pas retomber dans le même piège ce soir ?
Ouais, je pense que c'est notre chemin dans notre vie, c'est les cicatrices qui restent, c'est les leçons qu'on peut les garder pour la vie. Mais ça va à nous maintenant d'être intelligents et apprendre avec nos erreurs, avec les choses qui ont passé.
C'était pas de chance ou il y avait une petite part de responsabilité dans la façon d'appréhender le match ?
C'était très difficile parce qu'on ne peut pas dire qu'on a rentré sur le terrain et on ne voulait pas gagner, qu'on n'a pas forcé les choses, qu'on n'a pas voulu se battre. Ce n'est pas vrai. Mais des fois, ça ne passe pas. Ce n'est pas notre journée. L'autre équipe, elle est vraiment très, très bien. Ils ont, voilà, ils ont plus de chances dans la soirée. Ça, c'est le foot. Mais je pense que voilà, il faut juste qu'on garde notre sérénité. Après, c'est les détails de mettre l'intensité, de garder la concentration. Si nous, on n'est pas prêts, si nous, on n'est pas vraiment présents, nous, on peut se faire mal à nous-mêmes. Voilà, c'est des leçons pour nous et qu'on doit le mettre à notre avantage.
Il y a un joueur qui a évidemment explosé aux yeux du monde, même si tout le monde le connaissait déjà, mais est-ce que Kylian Mbappé a vraiment pris une dimension supérieure avec ce match à Barcelone ? Est-ce que vous le trouvez un peu changé.
Ouais, ça a boosté un peu, même sa confiance pour lui. Tu marques 3 buts au Camp Nou, tu vois que ça a été vraiment quelque chose de très important pour lui, pour nous. Voilà, dans ce match-là, tout le monde a compris de ce qu'il est capable. C'est un joueur très important pour nous, c'est un leader sur le terrain, et avec sa personnalité, avec ce qu'il peut apporter pour l'équipe, avec la qualité. Et voilà, et ce match, il a été vraiment exceptionnel.
Vous pensez qu'il peut rééditer la même performance avec Neymar à ses côtés? Ils sont meilleurs tous les deux, ou est-ce que c'est aussi parce qu'il avait plus de responsabilités seul qu'il a fait cette performance?
Non, on ne peut pas rentrer dans ces histoires comme ça. Je vois des gens déjà parler. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça. Et je pense que nous, on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous. Et si tu le demandes à Kylian, je pense qu'il lui préfère aussi quand il a Ney à côté de lui. Ney, il a été pas là. Kylian, il a été présent. Il a fait ce qu'il fallait. C'est tout un travail de petits détails en équipe. Et voilà.
Est-ce que vous, en tant que capitaine du Paris Saint-Germain, vous avez parlé avec Neymar, avec Mbappé, pour leur dire, voilà, le projet, il est encore là? Et on souhaite continuer avec vous, le club, mais le vestiaire, les joueurs, vous avez envie que ces deux joueurs restent, j'imagine?
Ouais, bien sûr. On connaît la situation qu'ils ont les deux. Mais dès qu'on a l'opportunité, on le parle, on discute. Et je pense qu'Io, ce que le club il peut apporter, c'est vraiment très clair dans la tête de chacun. Et surtout, dans ma tête, il est vraiment très clair. Et moi, j'ai vraiment très confiance. C'est pour ça que ça fait pour moi 8 ans que je suis ici. Et à chaque année, de plus en plus, le club me rassure. Et je pense que les objectifs du club ils sont vraiment très ambitieux. Et de plus en plus, le Paris Saint-Germain il est présent dans les grands rendez-vous. Je suis vraiment très heureux ici. Et oui, ça va être pas différent si les deux y restent.
On parlait de grands attaquants. Quand on arrive sur la pelouse, qu'on échange le fanion avec Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, il y a une concentration particulière, il y a une excitation.
Ouais, c'est plaisant. C'est vrai que nous, on aime toujours affronter les meilleurs du monde. Quand on parle de Messi, c'est vraiment le joueur qui a marqué l'histoire de foot. Et ça fait plaisir de jouer contre lui, de le voir de près. Mais voilà, une fois qu'on rentre sur le terrain et on est adversaire, lui, il se bat pour ses couleurs, pour lui, pour sa famille. Moi pareil de mon côté. Après, des fois, tu arrives à la maison même et tu ne rends pas compte de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Des fois, les choses y vont trop vite. Quand on pense et on réfléchit tout ce qu'on a réussi et qu'on est maintenant, ça fait vraiment plaisir.
Il faudrait qu'il vienne jouer au PSG, en fait, pour être plus souvent avec lui.
c'est un grand joueur, mais maintenant, c'est un adversaire. Et on peut pas le dire des choses comme ça, surtout avant un grand match comme ça. Nous, on se focalise sur nos joueurs. On a des grands joueurs ici. On a déjà montré qu'on peut vraiment faire la différence avec ce qu'on a.
Marquinhos, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année? Des fois, on dit, est-ce que c'est la bonne année, la Ligue des Champions, avec l'expérience de la saison passée? Est-ce que dans votre tête, vous vous dites, ça peut être la bonne?
Oui, j'ai toujours la confiance, j'ai toujours l'espoir. Voilà, notre équipe, de plus en plus, elle gagne en maturité. Comme j'ai dit avant, le Paris Saint-Germain, il est de plus en plus présent dans les grands rendez-vous. Et ça qui fait vraiment plaisir. Et voilà, il faut juste qu'on continue à travailler, qu'on continue à faire de notre mieux chaque jour, à chaque match, pour faire une bonne saison et une bonne histoire cette saison.
Merci beaucoup, Marquinhos.
Merci.
Et encore bravo pour ce français. Il faut dire à Neymar de prendre les cours pour parler aussi.
Ok, merci beaucoup.
Merci à la prochaine. Beaucoup.
Il a un bon état d'esprit, en plus d'un excellent français, on est d'accord Philippe.
Et puis c'est un garçon franc et sincère, parce que souvent il y a des joueurs qui véhiculent un discours, oui. Mais lui, Marquinhos, c'est le même dans le vestiaire.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche pour ce rendez-vous exceptionnel. Avec le capitaine du Paris Saint-Germain, PSG Barcelone, c'est bien entendu à 20h45 en direct et en intégralité, ce soir sur RTL, sur votre radio. Louis Bodin avec nous, bien entendu, bien et sûr. La météo à 7 jours. C'est à venir.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock.
Laissez-vous tenter.
Saviez-vous que le premier réalisateur de cinéma était une réalisatrice? Eh bien, c'est une des infos passionnantes du livre « 100 grands films de réalisatrices » qui vient de paraître. Julie Gayet en a signé la préface. Ce matin, à 9h, elle nous raconte et rend hommage à ces femmes du passé et d'aujourd'hui qui font avancer l'histoire du cinéma. À tout à l'heure. dans Laissez-vous tenter sur RTL.
RTL Matin.
La météo à 7 jours, à 8h34, sur RTL, avec vous Louis Bodin. Est-ce qu'il va falloir ressortir le paletot pour
Mais oui, parce que le temps va de nouveau changer au cours de ces prochains jours. Alors on l'a dit, aujourd'hui c'est un peu une journée intermédiaire, encore du soleil, mais déjà l'arrivée de la pluie dans le nord-ouest, là je la vois sur le littoral de la Manche, vous voyez, progressant sur la Bretagne, le Cotentin. Bref, toutes les régions situées au nord de la Loire verront la pluie avant la soirée ou la nuit prochaine. Puis demain, cette perturbation, elle va balayer toute la France. Donc changement, avec des nuages, de la pluie, du vent fort, on frôlera les 100 km/h sur le Nord-Pas-de-Calais. En arrivant sur les frontières de l'Est, ça donnera de la neige dans les Alpes du Nord. Et puis après, c'est parti. Vendredi, une autre perturbation va traverser toute la France. Des averses, de la pluie, du vent qui restera fort dans le Nord. La neige qui va tomber en abondance sur tous les massifs parce que les températures repartiront à la baisse. Même chose pour la journée de samedi. Il n'y a que près de la Méditerranée où, avec l'aide du vent, on restera sous le soleil. Mais ailleurs, des averses régulières sous forme de pluie, de neige en montagne. Et dimanche, on pourrait avoir de grosses quantités de neige sur tous les reliefs. Je vous reparlerai de risque d'avalanche, tellement il va neiger à basse altitude, des 800-900 mètres dans cette journée de dimanche. Et puis en début de semaine prochaine, toujours des averses et de l'air de plus en plus froid va revenir. C'est qu'en ce moment,
il arrive d'où cet air froid?
Mais il vient de Moscou, parce qu'à Moscou, en ce moment, on a 50 cm de neige et ça ne dégèle pas de la journée. Même chose du côté de Saint-Pétersbourg, surtout. Et bien, c'est cet air froid qui pourrait bien revenir en partie en milieu.
Le fameux Paris-Moscou, c'est ça?
Peut-être le Paris-Moscou.
Il ferait mieux de nous envoyer des vaccins Sputnik V, comme Vladimir, ce serait plus agréable.
Il y aura peut-être
les deux, oui.
Il y aura peut-être les deux. En tout cas, voilà, donc attention, vous l'avez dit, on garde son paletot à portée de main.
Et des possibilités donc de retour du grand froid dans quelques jours, je vous ai bien compris. Merci beaucoup, Louis Bodin.
Vous êtes comme ça.
Le dessin est à la base de tout, disait le sculpteur et peintre suisse Alberto Giacometti. Et s'il permettait à nos enfants de surmonter cette crise sanitaire qui les touche, qui nous touche tous depuis un an, c'est en tout cas le pari d'une dessinatrice et d'un psychologue du département de la Drôme. Ensemble, elles ont pensé et conçu une bande dessinée gratuite pour les enfants. Bonjour Raphaël Vantard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Cette bande dessinée a papoté, ses quatre petits feuillets à imprimer et les enfants se lâchent pour exprimer ce qu'ils ont sur le cœur.
Le coup de crayon enfantin ne fait pas dans la dentelle. Quand il faut représenter le coronavirus dans une bande dessinée, le personnage du méchant, il s'appelle Nico Ronavirus et il est souvent bariolé, mis en prison, raturé en verre par les enfants. C'est surtout l'occasion d'un dialogue entre Céline, maman, et son fils Maël, 6 ans.
Alors, ils ont dessiné ce fameux Nico Ronavirus, une sorte de petit monstre vert avec des petites pattes et des petits poils qui lui sortent de partout. Pas très très joli ce petit monstre.
Ça, c'est moi.
Comment t'es dessiné, toi, du coup, alors?
Avec mes pouvoirs, pour tuer le méchant Corona.
Là, dans ce dessin-là, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as mis derrière une cage, c'est ça?
Oui, parce qu'au moins, il est en prison et il ne peut plus nous embêter.
Les dessins terminés, Céline, la maman, laisse un peu tranquille Maëlle. Elle revient avec nous sur l'expérience apportée par cette BD sur le coronavirus.
Ce qui est marrant, c'est du coup un petit peu ce qu'il avait envie de faire avec ce virus. C'est qu'il avait envie de le tuer. Cette BD avait permis de verbaliser ça, alors que sinon on ne se serait pas rendu compte. Ça permet de mettre un peu plus le doigt sur leurs émotions et sur comment ils se sentent. Ça prend un peu le thermomètre, sans que ça soit dirigé vers les autres, mais que ça soit sur son dessin et après qu'on ait pu en parler.
De temps en temps, Céline ressort la BD remplie avec son fils. Les questions fusent, le vaccin, le confinement, le couvre-feu, les masques, tout y passe, avec les mots des enfants et les réponses pas toujours simples. Des adultes.
Alors au départ de cette bande dessinée, il y a l'union d'une dessinatrice et d'une psychologue.
Ces deux femmes, les voici.
Alors je suis Aurélie Alléon et je suis illustratrice.
Bonjour, et moi je suis Nina Sicone et je suis psychologue clinicienne.
Aurélie dessine d'abord pour ses enfants, puis au fil du confinement, elle fait profiter la BD autour d'elle.
L'idée c'est que ça soit du noir et blanc pour que les parents puissent imprimer facilement la BD. Donc on est sur du dessin au trait assez simple. C'est l'enfant qui est peut-être le héros des épisodes. Par contre, il y a effectivement un personnage qui revient au tout début, qui est le Nico Ronavirus. Donc on a voulu vraiment donner vie à ce virus. On imprime et on laisse faire aussi. L'intérêt, il est plutôt d'être aussi à côté de l'enfant parce que c'est l'aider à parler aussi. Il y a le côté jeu, il y a le côté super-héros, il y a plein de choses qui ressortent. Et eux, les enfants, ils se lâchent, ils le font avec des couleurs, avec des choses très expressives. C'est hyper gratifiant, en fait, de voir aussi les résultats des enfants. Enfin, quand on a créé la case pour qu'elle se remplit, c'est vraiment trop chouette, quoi.
Nina, la psychologue, rassure la dessinatrice et la guide dans le projet pour que la bande dessinée soit le meilleur meilleur outil possible pour aider les enfants à extérioriser et atténuer les souffrances.
Le dessin, c'est un moyen d'expression très important pour les enfants, comme le jeu. Et ça permet aux parents de pouvoir reparler des craintes et des peurs de l'enfant et de l'accompagner par le dessin en remplissant la BD à papoter. Et c'est cet exercice-là, cet exercice ludique, qui permettra de pouvoir atténuer ces craintes. Les retours qu'on a pu avoir, c'est que ça a permis vraiment de pouvoir extérioriser toutes ces inquiétudes face au contexte et de pouvoir en parler plus facilement, l'exprimer et le transformer, ce qui permet de décaler de toute la violence de la réalité.
Face au succès, la bande dessinée à papoter a été traduite en anglais et en italien. Elle est et elle restera gratuite pour que tous les parents puissent en profiter et parler avec des dessins de la crise que nous traversons tous ensemble.
Merci beaucoup Raphaël Vantard et rendez-vous sur RTL.fr pour retrouver toutes les informations sur cette bande dessinée.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40, ce matin Isabelle Choquet, gros plan sur un phénomène tout à fait troublant, les disparus volontaires.
Ouais, ça ne vous est jamais arrivé Yves, cette envie de tout plaquer, de faire un baluchon et de partir, quitte à laisser derrière vous un mari, des enfants, des amis? Non, pas vraiment. Mais pourtant, chaque année, ils sont 13 000 en France à sauter le pas, à tirer un trait sur leur passé et à se faire passer pour mort. 13 000 personnes, le Figaro a mené l'enquête. Il y a Guylaine, il y a Lisa, Antoine et puis il y a Betty. Betty qui devait retrouver toute sa famille au restaurant un samedi. Elle n'est jamais venue, sur un coup de tête. Pourtant, en apparence, elle avait tout pour être heureuse, comme on dit. Un mari aimant, 4 enfants, un poste de cadre chez Alstom, une belle maison. Elle venait de publier un livre, elle venait de fonder une association. Une belle vie donc, mais une vie au beurre du burn-out. Mon cerveau était tout le temps en ébullition, dit-elle. Je pensais au lancement du nouveau catalogue Alstom, à la compta de ma maison d'édition, à la communion des enfants, les victimes de l'association qui m'écrivaient. Un jour, Betty a craqué. Il a suffi d'une dispute avec son mari pour une broutille. D'un coup, tout est remonté, dit-elle. J'ai entendu une petite voix au fond de moi qui disait « Pars ». La suite se déroule comme une mécanique implacable, en mode robot. Elle enfile un jean, elle ramasse quelques vêtements dans son sac, elle saute dans le premier train. Je ne savais ni où ni combien de temps j'allais partir. Je pleurais sans cesse, je pensais à mes enfants. Pendant plusieurs jours, elle erre de Lille à Paris, puis à Lourdes, où elle prie pour un miracle. Pour sa famille, bien sûr, c'est l'apocalypse. Betty a bien laissé un message, mais son mari Pascal ne peut pas y croire. Il se rend à la gendarmerie, il explique que franchement, c'est pas le genre de sa femme de partir comme ça. Le gendarme lui répond qu'elle est majeure et qu'elle a le droit de disparaître. Oui, depuis 2013, le dispositif de recherche dans l'intérêt des familles n'existe plus. Seules les disparitions inquiétantes font l'objet d'une enquête. À part ça, les personnes majeures ont le droit à l'oubli, le droit de tout quitter sans explication. Mais l'idée de tout effacer et de tout recommencer, c'est une illusion, dit un psychanalyste. Parce qu'en réalité, on se fuit soi-même. Tant qu'on ne se confronte pas à ce qui nous a poussé à partir, le passage à l'acte ne sert à rien. Les mêmes problèmes vont se répéter. Disparaître, en fait, c'est un fantasme. Betty s'en est vite rendu compte. Au bout de quelques jours, elle s'est sentie coupable, alors elle a appelé son mari sans dire où elle était. Ça a quand même suffi pour qu'on la retrouve. Et la vie a repris son cours, mais différemment. Betty a changé de boulot. Elle reçoit beaucoup de lettres, des gens fascinés par son geste qui lui disent « Combien de fois j'ai voulu faire ce que vous avez fait, mais je n'ai jamais osé. » Betty est revenue, mais c'est un cas assez rare. Oui. Le plus souvent, quand on retrouve les disparus, ils refusent tout simplement de reprendre contact. Ce n'est pas partir qui est le plus difficile. Le plus dur, c'est de revenir. C'est ce que dit la présidente de l'association Assistance et Recherche. D'ailleurs, quand les disparus reviennent, ils refusent généralement de parler. Nous conseillons aux familles de ne pas poser de questions. Sinon, ils repartent. Le pire, ce sont tous ceux qui ont réussi, qu'on ne retrouve jamais. C'est une torture pour ceux qui restent, dit l'avocate spécialisée Cathy Richard. Ils sont dans l'incapacité de faire leur deuil. À chaque fois qu'on retrouve un corps, ils sont écartelés entre la peur que ce soit la personne qu'ils aiment et l'envie d'être fixés. Et elle conclut « Je n'aime pas qu'on parle de droit à disparaître. Ce n'est pas une infraction, mais ce n'est pas un droit. Les disparus volontaires, c'est une grande enquête à lire sur le site du Figaro. »
Ce n'est pas partir qui est le plus difficile. Le plus dur, c'est de revenir, nous avez-vous dit. Merci beaucoup Isabelle Choquet, on se retrouve demain matin. Vous revenez, oui. Non, vous revenez demain matin, c'est ça le plus important. Dans un instant, on va retrouver Laurent Gérard.
9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Le confinement le week-end passe de plus en plus mal dans la population française. Et plus généralement, beaucoup s'interrogent sur la pertinence des mesures gouvernementales. C'est le cas de nos amis, les déchiens.
Francisca, code qui n'en veut de l'opinion, avec aujourd'hui mon gars Bruno Lecher. Quel est ton avis sur le Carano. Bref. Quel est ton avis, mon Bruno?
Ah ben moi, je comprends pas, parce que Macron, il nous dit qu'il faut ouvrir la fenêtre pour aérer dans la maison, mais Véran, il nous empêche d'aller prendre l'air dehors le week-end. Donc, si je comprends bien, j'ai le droit d'ouvrir la fenêtre, mais j'ai pas le droit d'ouvrir la porte.
Oh, Bruno, mais dis-moi, tu es mûr pour être éditorialiste chez Pascal Pro, hein, voire épidémiologiste sur BFM TV.
Ah ben ça non plus, je comprends pas. Hein. On nous dit que les hôpitaux, ils sont engorgés et qu'il n'y a pas assez de médecins pour s'occuper des gens. Mais les toubibs, ils passent leur vie sur les plateaux télé pour nous dire que tout ce qu'ils avaient prédit, bah, ça s'est pas passé. Moi, je dis toujours à monsieur Saladin, qui la ramène avec ses études de CAP, quand tu sais pas, tu fermes ta gueule.
Ah, mais dis donc, Bruno, mais je vois que tu es très pointu dans tes analyses, hein, là, très pointu. Alors, j'en profite et je te pose la question. Que penses-tu du passeport vaccinal?
Oh ben déjà, avant de nous emmerder avec le passeport vaccinal, faudrait peut-être avoir des vaccins. Moi, je vois, c'est plus facile de vacciner Sultan, mon berger allemand de moi, que Solange, ma belle-mère de 80 ans. Et pourtant, quand on fréquente les deux, on dit que c'est ma belle-mère qui a la rage et c'est mon Sultan qui a le Covid avec sa truffe humide.
Ah, alors si je comprends bien, tu es comme Roselyne Bachelot qui est contre le passeport vaccinal, car c'est une atteinte à nos libertés.
Ah ben, elle est bien placée pour parler, celle-là. Elle a pas l'impression que ça fait un an qu'on atteint nos libertés. La Roselyne, faut qu'elle retourne aux grosses têtes à faire des blagues sur le brushing à Karine Lemarchand. Hein. De toute façon, elle sert à rien au ministère de la Culture, vu que tout est fermé. Moi, je dis, c'est un emploi fictif.
Mais attends, j'y pense, mon Bruno. Puisque personne ne trouve grâce à tes yeux, pourquoi que tu ne te lancerais pas en politique, hein, comme Zemmour?
Ah, c'est vrai, je sais pas si je serais tout faire, mais avec moi, au moins, les bistrots, ils seraient ouverts. Alors, votez pour moi.
Alors, pour qui donc vas-tu voter? Pour le chèque, pour le chèque. Pour qui donc vas-tu voter? Pour le chèque en 2022.
Wow! Ben alors.
Philippe Devilliers porte plainte contre Jean Castex et Jean-Michel Blanquer qui ont annoncé que les élèves du privé hors contrat seraient soumis à un bac plus contraignant que leurs condisciples du public et du privé sous contrat. Le contrôle continu ne sera pas pris en compte pour eux. Ils devront donc passer 8 épreuves au lieu de 2.
Montjoie, Saint-Denis, c'est le Montcheval, la gueuse. J'en vais garroyer contre le duc de Matignon. L'ignoble Castex, et le baron de la salle des profs, l'infâme Blanquer.
Bon ben calmez-vous Philippe Devilliers, écoutez.
Comment veux-tu que je reste calme devant les manigances de ces deux saligots qui par leur décision unique veulent empêcher nos valeureux étudiants d'avoir leur bachot. Tout ça parce que les parents de ces jeunes gens ont le bon goût de vouloir les protéger des ensorceleurs.
Les ensorceleurs?
Les ensorceleurs.
Ouais.
Les professeurs mâles à Catogan du SNES. Et leur alter ego de sexe féminin, lectrice de Télérama. Ils mettent dans le crâne de nos pauvres boutonneux des idées aussi lubriques que socialistes. Ces créatures du diable pervertissent nos pauvres enfants short. Songe que lorsque l'on presse le nez, il en sort de l'acné.
Oh, en quoi cette annonce du gouvernement vous concerne-t-elle autant en fait?
J'ai moi-même monté une école hors contrat dans mon puits du fou.
Ah, voilà.
J'entends que mes disciples aient les mêmes chances d'avoir leur bachot que les autres. Et aussi doivent bénéficier du contrôle continu pour leurs épreuves de fauconnerie, joute à cheval et combat au glaive.
Bah, ces matières semblent peu orthodoxes.
Tais-toi la gueuse. Si tu es sage,
oui.
J'accepterai ton Yorkshire bébé en terminale option tracteur de char. Crois-moi, c'est la voie royale.
Je vais réfléchir. TF1 a diffusé vendredi dernier le concert annuel des Enfoirés auquel devait initialement participer Francis Cabrel, mais il a préféré annuler sa venue par crainte de la Covid-19. Bonjour Francis.
Bonjour mademoiselle Jade. J'ai en effet préféré rester à Stafford dans le Lot-et-Garonne pour ne pas attraper le virus qui donne de la fièvre et nous force à rester au lit plutôt que de marcher avec la guitare en bandoulière sur les chemins bordés de cailloux qui roulent sous la semelle comme des billes des écoliers à l'ombre du platane de la cour de récréation de l'école maternelle Pierre Perret.
Ouf ! Et vous avez regardé le concert des Enfoirés à la télé quand même ?
Non, car c'est un concert sans public et je trouve ça tellement, mais tellement triste. Mm-hmm. Un concert sans public, c'est comme une rivière sans eau, c'est une forêt sans arbres, une prairie sans herbe, oui. Une ruche sans abeilles ou une boulangère sans miche.
Ah oui, je comprends. Votre public ne vous manque pas trop, justement, Francis.
Non, car il n'a jamais disparu. Je chante pour l'oiseau qui fait cuicui, le chien qui fait wah wah bibi.
Oui, oui, mon bibi.
La vache qui fait meuh, le voisin qui fait brrr avec sa tondeuse. Et la mouche bleue qui fait bzzz dans la cabane au fond du jardin.
À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg, il y a 30 ans, son personnage et son œuvre sont passés au crible de l'époque. Ainsi, les Inrock s'interrogent, je les cite, « En 2021, Gainsbourg est-il devenu problématique ?» Et l'Obs va encore plus loin en titrant « Gainsbourg cumulait tous les vices, peut-on encore l'aimer aujourd'hui ?» Je crois qu'on nous appelle de l'au-delà.
C'est un chier, merde.
C'est vous, Serge, Serge Gainsbourg ?
Petite cocotte, oui. C'est moi, Gainsbourg. Tu vois, quand j'étais encore avec vous et qu'on me demandait ce que je faisais pour la postérité, je répondais et qu'est-ce que la postérité a fait pour moi ? Hein, classe sûre, c'est pas dégueu, ça. Maintenant que je suis là-haut avec le fumeur de Havane, je sais que ma postérité a fait, pour les petits gars, les pisseux d'ici-bas, ça leur permet de voir où sont les nouveaux censeurs, les puritains, aux passions tristes.
Affirmatif.
Beaucoup vous reprochent a posteriori votre misogynie. Je ne suis pas sûr, par exemple, attendez, laissez-moi parler, que la féministe Alice Coffin apprécierait aujourd'hui de vous croiser sur un plateau télé.
Bon, faut que je sois rassurée, petite cocotte. Oui. Je dirais certainement pas comme à Whitney Houston, I want to fuck you. Oui. Je te laisse deviner pourquoi.
Oui, j'ai une petite idée, oui.
No comment.
Bon, d'autres trouvent très dérangeante votre chanson Lemon and Cest avec votre fille Charlotte.
Chut, merde. Faut que tu leur dises de se laver les portugaises. Ouais. Dans cette chanson qui est pas dégueu, c'est pas dégueu. Mm-hmm. Je dis ceci, merde.
Oui.
L'amour que nous ne ferons jamais ensemble, oui, est le plus beau, le plus violent, le plus pire, le plus enivrant. C'est pas dégueu, ça. C'est pas la plus belle déclaration d'amour d'un père à sa fille. Putain, c'est interdit, ça aussi, merde.
Non. Non, non, ce n'est pas interdit. Vous estimez que vos nouveaux détracteurs devraient se décontracter un peu ?
Au contraire. Ouais, la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Alors moi, je pouvais me le permettre, mais pas eux. That's it, man. That's it.
Merci à toute l'équipe. On vous retrouve en podcast sur le site RTL.fr. On a rendez-vous demain matin avec Laurent et toute son équipe, dont Mademoiselle Jade. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Monsieur Lignac. Bonjour, cher Cyril.
Bonjour.
Lui, il est en train de réviser et aujourd'hui, sa gamme n'est pas très facile à jouer. Enfin, on vous explique tout ça dans un instant. Il est question de four, à chaleur tournante, pour faire simple. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h58. Merci beaucoup d'écouter RTL. Et vous savez que vous pouvez interroger Cyril Lignac. Nos auditeurs nous écrivent sur rtl.fr/participer. Je répète, rtl.fr/participer. Sylvie, elle habite Nice. Elle a bien de la chance. Et elle nous écrit. Bonjour Cyril. Je vais commencer un CAP pâtisserie, déjà de bonne ronde dans la vie active, et j'aimerais savoir quel type de four je dois acheter pour réussir mes gâteaux, mon four étant devenu fatigué et capricieux. Un four à vapeur, un four à chaleur tournante. Alors, bon ben voilà, aujourd'hui vous êtes devenu patron de chez Darty, je vous laisse m'expliquer ce qu'elle doit faire.
Alors,
vous avez une minute.
Déjà, ce qui est génial, c'est que quand on veut préparer un CAP de pâtisserie, il faut déjà s'équiper.
Oui.
Donc, en effet, un four, c'est très important. Donc, J'ai pas de préférence pour un four. Mmh. Il faut un four à chaleur tournante,
d'accord,
ventilé, avec une bonne pyrolyse pour le nettoyer de temps en temps, parce que selon comment on fait de la pâtisserie, ou si on cuit un poulet rôti, moi par exemple, quand je fais de la viande et que je cuis, oui, un poisson, derrière je fais une petite pyrolyse.
Brioche, oui, voilà.
Et hop, comme ça, quand je peux faire de la pâtisserie, c'est meilleur.
C'est vrai que c'est pas interdit non plus de nettoyer son four soi-même. Hein.
C'est vrai, oui, mais c'est tellement pratique.
Oui, oui, je suis d'accord.
J'ai découvert ça. Nous, dans les cuisines, on nettoie à la main. Oui. Là, j'ai découvert cette petite pyrolyse. Franchement, ça fait pas longtemps. C'est génial. Hein. J'avoue voilà, que là, c'est 3 heures, c'est nickel. Bon,
allez, vendez-lui un four à pyrolyse.
Ce qu'il faut, c'est surtout bon, un bon four pour faire les macarons, les pâtes, les brioches, tout ce qui tourne autour de la pâte et de la cuisson. Et ensuite, il faut bien s'équiper, c'est-à-dire un robot. Donc, un bon robot pour monter les blancs, pour préparer les pâtes, pour monter les chantilly, avec un fouet, un crochet, une feuille, pour faire tout ce qu'on a besoin pour la pâtisserie. Et ensuite, des poches à douille, tout le matériel nécessaire. Et, alors, le truc incontournable, c'est les feuilles, les cils-pâtes, ce qu'on appelle, les feuilles de papier silicone, pour cuire.
Ah oui, ça, ça a tout changé, ça.
Exactement.
Bon, d'accord.
Et là, avec ça, on ne peut rien rater.
Bon, ces rectangles que l'on voit maintenant dans toutes les émissions de cuisine.
Exactement.
Et dont vous êtes un spécialiste. Donc, c'est très bien, en fait. Vous ne lui avez absolument pas recommandé un four en particulier. Mais vous lui avez recommandé tout ce qui va autour.
Exactement. Mais le four vapeur, c'est bon pour la cuisine. On fait pas la pâtisserie avec les fours vapeur.
Bon, ben, Sylvie, j'espère.
Je vous fais livrer un four
Non, je vous remercie.
C'est mieux d'en faire.
Je suis très bien équipé. À demain, cher Cyril.
À demain.
Il est 9h, oui, c'est ça.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point d'actualité avec Jérôme Florent.
L'appel d'Olivier Véran aux soignants commence à porter ses fruits. 36% de personnel hors EHPAD désormais vaccinés contre 30% la semaine dernière. Progression également chez les personnels des maisons de retraite. 46% ont reçu une première dose contre 40% il y a encore quelques jours, d'après les chiffres du ministère de la Santé. Où se contamine-t-on le plus? Une dernière enquête de l'Institut Pasteur confirme que le premier foyer d'infection est le domicile et elle dédouane, cette enquête, les lieux de culture, les théâtres, les cinémas et musées pourtant fermés depuis fin octobre. Deux adolescents en garde à vue après la mort d'une jeune fille de 14 ans à Argenteuil, tabassée et jetée dans la Seine, à l'origine une sombre histoire de rivalité amoureuse entre collégiens. Une nouvelle bagarre entre bandes rivales, toujours impliquant des mineurs, mais cette fois dans le 16e arrondissement de Paris, hier soir. Il y a 5 blessés, dont un grave. Les autorités russes ont décidé de ralentir le fonctionnement de Twitter. Elles accusent le réseau de violer la loi en refusant de supprimer des publications jugées illégales. Et puis le PSG face au Barça, ce soir 8e de finale, retour de Ligue des Champions. 3 semaines après la large victoire parisienne, le spectre de la remontada plane toujours. Cette spectaculaire remontée des Catalans en 2017 face au PSG. Marquinhos, le capitaine parisien invité de RTL, en a gardé un souvenir douloureux.
C'est notre chemin dans notre vie, c'est les cicatrices qui restent. Parce que on ne peut pas dire qu'on a rentré sur le terrain et on ne voulait pas gagner, qu'on n'a pas forcé les choses, qu'on n'a pas voulu se battre. C'est pas vrai. Mais des fois, ça passe pas. C'est pas notre journée. Il faut juste qu'on garde notre sérénité, de garder la concentration. Voilà, c'est des leçons qu'on doit le mettre à notre avantage.
PSG Barça à suivre sur RTL dès 20h45.